Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
On n'a pas besoin d'endormir les patients, on n'a pas besoin de les sédater, on n'a pas besoin de les curariser. C'est une stratégie qui permet sans doute de placer moins de patients sous ventilation artificielle.
Moins de complications pour les malades du Covid à l'hôpital. Les médecins savent désormais comment mieux les prendre en charge en réanimation. On va vous expliquer ça dès le début de ce journal. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la gratuité du masque dans les établissements scolaires. Un conseil de défense se tient ce matin à l'Élysée. Des centaines d'hectares ravagés par les flammes dans les Bouches-du-Rhône. 1300 pompiers mobilisés. Nous appellerons le colonel Guyot pour faire le point sur la situation. Les États-Unis vont-ils à nouveau s'embraser après une nouvelle bavure policière dont la victime est un homme noir? Il a reçu 7 balles dans le dos à Kenosha, dans le Wisconsin. Et puis, après la défaite, il faut maintenant aller de l'avant sans trop se retourner. Pas évident pour les joueurs du PSG.
Juste après ce journal, annonce de Bruno Le Maire dans les Échos ce matin. De nouvelles mesures d'aide aux entreprises, on va les détailler. L'éclairage éco de Nicolas Barré, c'est à 7h10. Le regard international de Vincent Hervouette, il ne faut pas chatouiller Vladimir Poutine. L'édito sport, Virginie Fulpin, c'est à 7h20. Avant de retrouver notre nouveau rendez-vous d'histoire à 7h25, Stéphane Bern et l'origine des messages codés de la BBC. Très bon réveil à toutes et à tous. Avec Europe Matin, il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
2000 nouveaux cas positifs ces dernières 24 heures, chiffre en baisse. Moins de personnes hospitalisées également, 4700, dont 400 en réanimation. Derrière tous ces chiffres se cache un constat. Les médecins savent désormais bien mieux traiter les malades du Covid et surtout éviter les complications.
Mais d'ailleurs, le risque de basculer en réanimation a été divisé par deux, selon le professeur Fontanet, qui était hier l'invité d'Europe 1. Ève Roger nous explique pourquoi.
On le sait, il n'existe pas de médicament miracle contre le Covid-19, mais aujourd'hui, les médecins donnent des corticoïdes, plus précisément de la dexaméthasone, à tous les patients sous oxygène, comme Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, qui en a constaté les effets positifs.
Ce médicament a démontré son intérêt pour réduire l'évolution vers les formes graves de réanimation ou l'évolution vers le décès des patients déjà intubés ventilés en réanimation.
Deuxième progrès, les médecins aujourd'hui intubent de façon moins systématique les patients, c'est-à-dire qu'ils transpercent moins leur trachée. Ils utilisent maintenant une autre technique qu'on appelle l'oxygénation à haut débit, car ils ont compris qu'elle était moins dangereuse pour les soignants que ce qu'ils craignaient, à cause des risques de contagion, mais aussi moins agressive pour les malades, explique Éric Maury, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
On n'a pas besoin d'endormir les patients, on n'a pas besoin de les sédater, on n'a pas besoin de les curariser. C'est une stratégie qui permet sans doute de placer moins de patients sous ventilation artificielle.
Enfin, les médecins ont aussi compris pourquoi certains patients, lors de la première vague, décédaient brutalement en réanimation. C'était à cause d'une embolie pulmonaire provoquée par la formation de caillots dans le sang. Aujourd'hui, ils anticipent en donnant des anticoagulants à tous les patients en réanimation.
Et à 7h45, je vous le disais, je recevrai le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou.
En tout cas, l'Allemagne considère désormais les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur comme des zones à risque. Les voyageurs qui en reviennent devront passer un test de dépistage et rester en quarantaine jusqu'au résultat.
Un nouveau conseil de défense se tient ce matin à l'Élysée. Objectif, faire le point sur la situation dans les écoles, dans les transports, les entreprises ou dans le milieu de la culture.
Et d'ailleurs, selon les informations d'Europe 1, le protocole sanitaire dans les établissements scolaires va être réévalué.
Vous le savez, dès la rentrée, dans une semaine seulement, le masque sera obligatoire à partir de 11 ans et de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer sa gratuité, que ce soit pour les collégiens, les lycéens ou les étudiants.
Oui, la voix par exemple du député En Marche, Lionel Cos, il demande au gouvernement de débloquer 150 millions d'euros pour mettre cette mesure en œuvre.
Je considère qu'il ne s'agit pas de fourniture scolaire puisqu'on est bien sur un équipement pour la santé de notre jeunesse. C'est une vraie charge pour toutes les familles. Ça peut faire plusieurs dizaines à quelques centaines d'euros en fonction de la constitution donc du foyer. La situation exceptionnelle, on doit porter des réponses exceptionnelles. Je demande à ce que tous les jeunes puissent avoir 5 masques. 5 masques, c'est la quantité qui est suffisante pour pouvoir les avoir tournés, les laver tous les jours, avoir un masque disponible, qui soit propre et utilisable. Bien entendu, en tissu, et donc avec 5 masques, on peut tenir quasiment jusqu'à la fin de l'année pour tous les jeunes, jusqu'à la période des vacances de Noël ou de fin d'année. Il est important aussi qu'on ait un geste social fort Et je pense que 150 millions d'euros, dans le cadre du plan de relance de 100 milliards, ça vaut le coup qu'on essaye de travailler à cette solution.
Le député En Marche des Landes, Lionel Causse, joint par Jean-Jacques Herry, d'ores et déjà le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, annonce la distribution de masques en tissu gratuits pour chaque lycéen et apprenti. Plus de 300 000 jeunes sont concernés.
Les masques qui, dès le 1er septembre, seront obligatoires en entreprise. Mais cette rentrée sera souvent synonyme de télétravail pour de nombreux salariés.
Oui, télétravail qui reste recommandé dans les zones où le virus circule activement, selon la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Elle demande aussi aux partenaires sociaux d'accélérer les discussions sur le sujet, sauf que les négociations patinent, Carole Ferry.
Ça coince même sévèrement. Alors le gouvernement tente de mettre de l'huile dans les rouages, mais il y a encore du travail. D'un côté, les syndicats réclament une négociation interprofessionnelle. Ils veulent que tout le monde se mette autour de la table pour définir de nouvelles règles au niveau national, avec des questions comme les entreprises doivent-elles prendre en charge une partie de l'abonnement Internet ou de la facture de chauffage des salariés en télétravail. Pour le patronat, la loi telle qu'elle est aujourd'hui suffit largement. Favoriser le télétravail, oui. Le généraliser, non, disent le MEDEF et la CPME. On n'a pas le temps de se battre pour faire revenir les gens au travail quand on a besoin d'eux, me confiait un chef d'entreprise. Alors en coulisses, des réunions sont tout de même régulièrement organisées entre les partenaires sociaux et le ministère du Travail. Objectif, faire un diagnostic de ce laboratoire du télétravail qu'a été le confinement. Quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients? Les conclusions sont attendues début septembre. Il y aura des avancées, c'est sûr, mais pas forcément la révolution annoncée en plein Covid.
Et Carole Ferry.
7h07 sur Europe 1. Environ 500 hectares partis en fumée dans les Bouches-du-Rhône. Un violent feu de forêt qui s'est déclaré hier à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille.
Oui, notamment autour de Martigues et plusieurs maisons ont dû être évacuées.
Bonjour capitaine Stéphane Guyot.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône et merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation ce matin ?
Écoutez, hier, vers 14h, un violent incendie a débuté sur la commune d'Istre et a touché les communes de Martigues, de Saint-Mitre et de Port-de-Bouc. Comme vous l'avez dit, à peu près 450 à 500 hectares ont été parcourus par les flammes. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce matin, à cette heure-ci, le feu ne progresse plus, même si les sapeurs-pompiers ont travaillé d'arrache-pied. Il y a encore 900 sapeurs-pompiers sur le terrain qui ont lutté toute la nuit d'arrache-pied pour éteindre les reprises de l'incendie qu'il y a pu y avoir sur le flanc droit et à l'arrière du flanc gauche. Et vont continuer un travail harassant, compliqué, parce qu'il y a peu d'accès à part certains endroits, pour éteindre complètement cet incendie.
Et il y a eu jusqu'à 1300 pompiers mobilisés hier. Plusieurs ont été légèrement blessés.
Oui, c'est ça. Alors, 1300 pompiers, on a été renforcés effectivement par nos collègues du bataillon des marins-pompiers de Marseille et aussi par les colonnes renforts issues d'autres départements. Hein. Donc, on a bien vu qu'il y avait une solidarité nationale qui a joué pour venir nous épauler. Effectivement, quelques sapeurs-pompiers ont été légèrement intoxiqués ou légèrement blessés. Aucun n'a été transporté vers de centres hospitaliers, donc il n'y a pas d'inquiétude vis-à-vis de ces sapeurs-pompiers.
Et les dégâts sont importants ?
Alors, nous avons quelques maisons qui ont été endommagées par les flammes et les fumées. Nous allons, dans la journée, essayer de faire un petit tour du feu pour voir et diagnostiquer un petit peu tous les dégâts qu'il aurait pu avoir. Effectivement, ce que je peux vous dire en termes de dégâts, il y a tous ces hectares de forêt qui sont partis en fumée, bien évidemment.
Merci beaucoup, capitaine Guyot, responsable de la communication des pompiers des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été l'invité du journal de 7h ce matin sur Europe 1.
Direction maintenant les États-Unis où, trois mois après l'affaire George Floyd, une nouvelle bavure policière pourrait raviver un mouvement de protestation historique.
Et cette fois, ça se passe dans le Wisconsin. Un policier blanc a tiré 7 coups de feu dans le dos d'un homme noir qui n'était pas armé. Scène filmée au téléphone portable qui fait le tour des réseaux sociaux. Et ce matin, Xavier Yvon, la colère gronde à nouveau dans le pays.
Ah oui, dans la ville de Kenosha où ça s'est passé, il y a à nouveau cette nuit des bâtiments qui brûlent et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le nom de Jacob Blake commence aussi à résonner dans les rues d'autres villes comme New York où plusieurs centaines de personnes ont défilé hier. Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, lui, a dit sa douleur et son indignation.
I just want to send my prayers out to Jacob Blake and their family.
Des basketteurs de la NBA ont profité des interviews d'après-match pour envoyer leurs prières à la famille de Jacob Blake et réclamer justice. La vidéo glaçante qui a tout déclenché tourne en boucle sur Internet et les télévisions. On y voit Jacob Blake entouré par deux policiers blancs avec leurs armes braquées sur lui. Le père de famille noir de 29 ans ignore leurs ordres et tente de remonter dans sa voiture. Il ouvre la portière conducteur et c'est là qu'un des officiers lui tire 7 fois dans le dos à bout portant. Ses trois fils étaient à l'arrière de la voiture, ils ont donc vu leur père s'écrouler. Selon sa famille, Jacob Blake a été opéré, il se trouve désormais dans un état stable. Il manque encore beaucoup de détails sur cette affaire. Les policiers impliqués ont été mis en congé administratif et une enquête a été ouverte.
Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Connaissez-vous... Je l'ai appris, hein. Je viens de l'apprendre. Le terme jackpotting. Jackpotting, c'est une nouvelle technique pour dévaliser les distributeurs de billets. La semaine dernière, trois hommes ont été arrêtés en flagrant délit à Nîmes.
Oui, des délinquants qui sont aussi des pirates informatiques chevronnés, car il faut l'être pour utiliser cette technique de braquage, Justin Morin.
À Nîmes, même les policiers n'en avaient jamais entendu parler. Le jackpotting, ce mode opératoire consiste à vider un distributeur automatique juste en le piratant et en lui donnant l'ordre de délivrer tous ses billets. C'est ce qu'ont essayé de faire les trois hommes interpellés, trois Moldaves âgés d'une vingtaine d'années. Vers 4h du matin, casquette sur la tête et sweat relevé jusqu'au nez malgré la chaleur des nuits nîmoises, ils sont campés devant un distributeur non loin du centre-ville. Cela suffit à attirer l'attention d'une patrouille de la BAC, mais le groupe réussit à s'enfuir et à semer les policiers qui découvrent alors la partie haute du distributeur de billets retiré. C'est ici que les braqueurs 2.0 ont essayé de se connecter au système informatique, mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi. Et dans la panique, en s'enfuyant, les trois suspects ont laissé tomber un portable avec des photos du distributeur qu'ils avaient repéré plusieurs jours avant. Les policiers les ont finalement arrêtés un peu plus tard, bredouille, mais avec assez de preuves et des aveux suffisants pour qu'ils soient renvoyés devant le tribunal.
Michel Fourniret sera entendu aujourd'hui et demain par la juge chargée de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Son ex-femme l'accuse d'avoir tué la fillette dans les Ardennes en 2003.
Vous étiez plus de 12 millions de téléspectateurs au total devant la finale de la Ligue des Champions qui a vu la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Hier soir, les joueurs sont rentrés à Paris. Ils ont dîné avec leurs proches au Parc des Princes.
Neymar et ses coéquipiers n'ont pas beaucoup de temps pour digérer cette désillusion. Il faut déjà remettre les crampons pour disputer le championnat. Mais comme le savent les anciens du PSG, rebondir, ce n'est pas si simple, Cyril de la Morinerie.
En 1991, Laurent Fournier perdait lui aussi la finale de la Ligue des Champions, c'était avec l'OM. L'ancien milieu du PSG le reconnaît, après une telle déception, il est très difficile de retrouver la motivation pour des échéances moins palpitantes. En plus, Paris est fatigué et la coupure sera courte. Le club a d'ailleurs demandé le report de son premier match de Ligue 1 de la saison, prévu samedi à Lens.
Quand on perdait, c'est une finale, c'était des vacances. Là, maintenant, il n'y a pas de vacances, je crois qu'il faut reprendre le championnat directement. Et c'est là qu'il va falloir être fort moralement et peut-être amener de nouveaux joueurs.
Les Parisiens vont devoir se parler pour évacuer la déception, conseille Denis Troche. Pour ce préparateur mental reconnu, Paris doit se servir de cet échec pour se relancer.
Toutes les émotions vont arriver dans tous les sens, la colère, la peur, la tristesse, pour finalement rebondir vers une acceptation et grandir.
Cette défaite n'est pas un coup d'arrêt. Chelsea a gagné la Ligue des Champions au bout de sa deuxième finale. Même chose pour l'OM, vainqueur 2 ans après sa première tentative.
Et puis l'ex-brésilien du PSG Ronaldinho vient d'être remis en liberté après 5 mois de détention au Paraguay dans une affaire de passeport falsifié. Détention, c'est un grand mot puisqu'il a passé son temps avec son frère dans un hôtel de luxe. Il avait payé une caution de plus d'1,5 million de dollars.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13, un conseil de défense dédié au Covid a lieu ce matin. Comment préparer la rentrée à l'école, dans les bureaux? Comment gérer la nouvelle pression de l'épidémie? À 7h40, mon invité, c'est le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, également maire des Républicains de la Garenne-Colombe. Mais tout de suite, l'État va proposer une aide à long terme aux entreprises. L'éclairage éco de Nicolas Barré, c'est dans quelques secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h16 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Mise en place très vite au début de la crise du Covid, les PGE, le prêt garanti par l'État, a sauvé des milliers d'entreprises. 500 000 y ont eu accès. Est-ce qu'elles pourront, Nicolas, survivre sans les béquilles de l'État?
Alors justement, ça va être tout le problème de cette rentrée. Les chiffres le montrent, hein, ces prêts garantis par l'État, c'était un succès. C'était la mesure intelligente à prendre avec le chômage partiel. Et il faut saluer à la fois le gouvernement et les banques qui ont vraiment joué le jeu. On a tendance, vous savez, à parler plus souvent des ratés que des réussites. Ben là, la vérité, c'est que dans l'immense majorité des cas, les dossiers de prêts ont été instruits rapidement. Les entreprises qui avaient besoin de fonds en ont eu. Je renvoie d'ailleurs les sceptiques aux deux chiffres suivants. Durant les 12 mois précédant la crise du Covid, les banques ont distribué 70 milliards de prêts aux entreprises. depuis les 6 mois de la crise, en moitié moins de temps, elles ont distribué pratiquement 2 fois plus de prêts, 120 milliards. L'État et les banques, on peut le dire, ont été vraiment au rendez-vous.
Mais bon, maintenant, il faut en sortir.
Mais voilà, c'est là que ça se corse. Ces prêts qui peuvent s'étaler sur 5 ans, il faut bien les rembourser. Et il ne faudrait pas que les entreprises qui ont bénéficié de cette béquille se retrouvent avec un mur de dette juste au moment où l'activité repart, où il faut investir, où les dispositifs de chômage partiel arrivent en bout de course. Bref, juste au moment où les charges augmentent. D'où 2 mesures importantes pour éviter que les entreprises soient prises à la gorge. La première, Bruno Le Maire l'annonce ce matin, d'ailleurs dans nos colonnes, c'est un accord avec les banques pour que les taux de ces prêts garantis restent très bas, entre 1 et 3% sur toute la durée du prêt. Les banques espéraient un taux plus élevé, mais enfin, leur intérêt, c'est que les entreprises remboursent et ne fassent pas faillite. C'est donc un bon compromis.
L'autre mesure vise à renforcer le capital des entreprises.
Oui, et là, c'est vraiment très important. Le problème du capitalisme français, vous savez, c'est qu'il manque de capitaux. Les entreprises ont trop de dettes, pas assez de capitaux, et donc ça freine l'investissement. Alors, comme il n'était pas question que l'État devienne actionnaire de milliers de PME, eh bien, Bercy a trouvé une solution intermédiaire avec ce qu'on appelle des prêts participatifs, c'est donc des prêts à très long terme qui sont presque comme du capital. Alors, n'entrons pas dans les détails, mais retenons l'idée. Les entreprises, avec ce Covid, ont subi un choc inouï. Et au-delà du court terme, eh bien, l'État leur apporte un soutien sur plusieurs années. Ça, c'est complètement inédit. Et si avec ça, certains continuent à prétendre que la politique du gouvernement est trop libérale, c'est qu'ils ont vraiment raté certains épisodes.
Merci Nicolas Barret. C'est donc à lire dans les Échos ce matin, les annonces de Bruno Le Maire. Merci Nicolas, 7h18. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
L'Allemagne somme la Russie d'enquêter et de faire toute la lumière sur l'empoisonnement de l'opposant Navalny et que les responsables soient traduits en justice.
Oui, les médecins allemands de l'hôpital de la Charité qui ont examiné Alexis Navalny ont fini par dénicher l'arme du crime, un innervant du groupe des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Hier, on ignorait ce mot barbare, oui. Et bien demain, tout le monde le connaîtra. C'est comme le polonium ou le Novichok.
Mais c'est plus dur à prononcer.
Oui, les Russes avaient déjà enseigné le tableau de Mendeleïev. Eh bien, depuis 10 ans, ils popularisent une autre chimie. On ne la trouve pas en droguerie entre la morora et le flacon de vitriol, mais dans le cabinet des poisons des services secrets. Avec les traces d'acétylcholinestérase, le scénario du crime d'État est téléphoné, l'énigme résolue, le suspect désigné. D'ailleurs, Angela Merkel a aussitôt sommé le Kremlin de juger les coupables et le monde comprend que ce défi est une mise en accusation et c'est là où on peut se demander si l'hôpital de la Charité ne se moque pas de la charité la plus élémentaire, celle qu'on doit à ses voisins en danger.
À qui est-ce que vous pensez ?
Eh bien, Navalny reste dans le coma, mais il est entre les mains des meilleurs spécialistes en toxicologie. On peut espérer qu'ils s'en sortent, comme ont finalement récupéré le colonel Skripal et sa fille empoisonnés en Angleterre. Mais il n'y a personne pour protéger les Biélorusses qui se dressent contre leur inamovible dictateur, Loukachenko. L'Europe ne peut rien pour sauver les dirigeants du mouvement de grève et les membres du conseil de coordination qui ont été arrêtés hier. Personne pour les sauver, sauf Vladimir Poutine. Seul le Kremlin peut débrancher le tyrannosaure de Minsk, l'empêcher de faire un bain de sang et lui trouver une porte de sortie. Alors les services russes sont intimes des services du Bélarus. Ils partagent la même conviction que la peur et la violence sont les moyens efficaces pour gouverner, mais ils savent surtout qu'il faut éviter à tout prix une contagion de la révolution. Jusqu'à présent, les opposants du Bélarus qui sont allés sonner à l'ambassade russe, eh bien, ont trouvé porte close. Poutine prend son temps. Cet homme est vraiment un poison et jusqu'ici, on n'a pas trouvé d'antidote.
Vincent Hervouet, l'éclairage international, le regard international de Vincent Hervouet tous les matins sur Europe 1, évidemment. Il est 7h20. À suivre sur Europe 1, c'est votre nouveau rendez-vous d'histoire et c'est tous les jours à 7h25 Europe Matin, l'origine des messages codés de la BBC. On va retrouver Stéphane Bern tous les jours, il arrive dans quelques minutes. Mais tout de suite, cette formule 2020 de la Ligue des Champions, est-ce qu'elle vous a plu, ce petit tournoi? Eh bien pas sûr qu'on le revoie, l'édito sport de Virginie Fulpin, c'est dans une minute. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h23, Europe Matin, et l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors on va revenir ce matin sur cette Ligue des champions de football si particulière qui s'est terminée dimanche. Ah oui, dimanche, il y avait un match. Non, pardon.
Oh, on sait plus.
Avec la crise sanitaire, les 8 équipes quart de finalistes ont disputé un tournoi à élimination directe. C'était à Lisbonne. Donc est-ce que c'est l'avenir de la compétition pour vous? Même si c'est séduisant, ça n'aura pas lieu. parce que ça ne rapporte pas assez d'argent.
Ben oui, le nerf de la guerre, hein, le nerf du football. Au départ, quand l'UEFA a opté pour ce tournoi à élimination directe, c'était une solution d'urgence. Hein. Il fallait aller au bout de la compétition pour ne pas perdre trop d'argent. Oui, c'était déjà ça la motivation. Il s'agissait juste de parer au plus pressé. Mais après, il y a eu les matchs et ça a changé beaucoup de choses. Des matchs dans deux stades vides, oui, sans spectateurs et pourtant. Des rencontres engagées, du suspense, des scénarios haletants. Et là, on est nombreux à s'être dit « mais c'est génial ce format, il faudrait le garder. Quand il y aura le retour du public, ça sera beaucoup plus exaltant que les matchs aller-retour. » Rassurez-moi, je ne suis pas la seule à m'être enthousiasmée, j'espère. Donc nous, en plus, avec deux clubs français en demi-finale et en finale, on avait de quoi se laisser conquérir.
Et oui, même, ça a joué aussi.
Oui, il faut le reconnaître, ça joue, évidemment. Et même à l'UEFA, le discours a changé. Le président se dit que ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir. Pour le jeu, franchement, on y gagne. Parce qu'un match à élimination directe, on gère moins, on se donne plus. Forcément, on ne cherche pas à préserver un score avant le retour. Donc là, c'est un grand oui. Mais pour les supporters, parce que le foot, c'est aussi recevoir dans son stade, devant ses fans, même si on a un petit peu oublié ce que c'était. Ça me semble compliqué de priver les équipes et les supporters de leur match à domicile. Quand tout reprendra son cours, on en aura soupé, hein, de la privation de football. Et avec cette formule, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas se déplacer en Europe pour aller soutenir un club sur un terrain neutre.
Oui, hein. Mais ça n'est pas l'argument des supporters qui va peser le plus lourd pour le futur de la Ligue des Champions.
Non, ne soyons pas naïfs. Hein, les finances vont plus compter que la passion dans cette histoire. Il y a malheureusement peu de place pour le romantisme. Pour les clubs, si on reproduisait cette formule, ça voudrait dire une baisse conséquente des recettes de billetterie avec moins de rencontres à domicile. Je ne vois pas comment ça peut être bien accueilli. Et puis, il y a surtout les droits télé, le véritable Graal. Des matchs à élimination directe au lieu des allers-retours. J'ai beau être mauvaise en maths, ça veut dire moitié moins de matchs, donc a priori, moitié moins de droits télé. Alors non, on ne reverra pas ce format de Final 8 de sitôt, mais comme ça a été séduisant et que le but est aussi d'attirer un nouveau public, on pourrait se diriger à terme vers un tournoi de ce genre uniquement à partir des demi-finales. Ouais, c'est une manière de ménager la chèvre, le chou et surtout le portefeuille.
Merci Virginie Fulpin. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin tous les matins à 7h20. Et sur Europe 1 tous les matins cette année, vous le savez, juste après l'édito sport, on va retrouver, enfin vous le savez ou vous l'apprenez, hein, ce n'est que la deuxième depuis la rentrée, on retrouve Stéphane Bern chaque jour pour nous parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour cher Mathieu Béliard. Alors aujourd'hui, comment ne pas tourner nos pensées vers la libération de Paris ? Vendredi 25 août 1944, à 15h30, le général Philippe Leclerc de Hautecloque a seulement 43 ans, reçoit la capitulation des troupes d'occupation de la capitale devant la gare Montparnasse. Et comme nous sommes à la radio, je souhaitais revenir sur ces phrases abscons, vous savez, celles « les carottes sont cuites », « les sanglots longs des violons de l'automne » ou encore « message important pour Nestor, la girafe a un long cou ». Toutes ces phrases furent autant de messages codés diffusés sur la célèbre Radio Londres par les ondes de la BBC entre 1941 et 1944. Alors, les sangles longs des violons de l'automne viennent bien entendu du célèbre poème « Chanson d'automne » de Verlaine qui inspira « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Gainsbourg. Message important pour Nestor, la girafe a un long cou. Voilà une jolie phrase pleine de poésie, mais sachez qu'elle donnait le top départ d'un harcèlement massif des Allemands avec embuscade et sabotage. Nestor, on ne le sait peut-être pas, je ne sais pas si vous le saviez Mathieu, c'était le nom de guerre de Jacques Poirier qui était un agent français au sein du service secret britannique.
Vous me l'apprenez.
Et les carottes sont cuites alors vous
Je connais l'expression mais moins l'origine.
Ah bah oui, il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle, le mot carotte, de par sa forme et sa proximité sonore avec le mot crotte, le légume sert dans le langage familier à évoquer les déjections. Et puis à la fin du XIXe siècle, l'expression « avoir ses carottes cuites » signifie qu'on est vers la fin, là, on est agonisant, on est mourant. Selon l'auteur Georges Planel, dans les familles pauvres, les rares plats avec de la viande se cuisinaient avec des carottes. La phrase « les carottes sont cuites » évoque donc normalement une fin proche. Mais à la BBC, elle a été utilisée pour annoncer au contraire un débarquement imminent, prouvant une bonne fois pour toutes que l'espoir est toujours permis.
Stéphane Bern, on va vous retrouver à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1. Quel est le programme du jour ?
Bon, alors c'est vrai que ça fait que deux jours que je suis à Europe 1, cher Mathieu. C'est beaucoup, mais peu comparé à eux. Aujourd'hui, on va vous raconter les règnes les plus longs, mais alors très très longs. Le pharaon Ramsès II, la reine Elisabeth II et Michel Drucker Ier. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. raconter avec Mathieu Noël. C'est tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h.
Merci Stéphane Bern, que l'on retrouve le matin donc sur Europe 1 et à 16h. Évidemment avec Mathieu Noël, vous l'aurez compris. 7h28, très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est là pour vous aider. Là. Vous avez, la, j'aime le dire, la ceinture autour de la taille. Vous sortez de la douche. Comment je m'habille aujourd'hui, Laurent?
Je croyais que c'était moi. Non, c'est nos amis
qui nous écoutent. Non, il est habillé. Hein, je tiens à préciser, Laurent Cabrol est habillé.
Oui, mes chers amis, vous allez vivre à peu près la même journée qu'hier, mais avec un petit peu plus de pluie. C'est la phrase que je vous donne depuis ce matin, parce que c'est la vérité. Je vais vous dire simplement qu'en Bretagne et Basse-Normandie, les pluies vont cesser. Que sur Paris, oui, jusqu'à la mi-journée, après ça ira mieux. Il y a un petit peu de bruine. Sur le nord, la Sarthe, la Mayenne, la Loire Atlantique. Aujourd'hui, ce sera un temps plutôt maussade en deuxième partie de journée surtout. Et un voile sur la Bourgogne et le Berry. Bon, et puis partout ailleurs du soleil, dans le sud-ouest, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. Le plus important, c'est que cette journée sera la plus chaude de la semaine, avec des 34, 35, 36 dans le sud-ouest. Ma foi, ça va chauffer. Et puis demain, mercredi, eh bien, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies. Mais les nuages seront majoritaires. Pas de pluie demain, avec des vents d'ouest à 50 km/h. Les températures commencent à baisser. Jeudi, retour des pluies le long de la Manche, et puis un dégradé de plus en plus ensoleillé. Vendredi, la pluie passe au sud, sud-ouest, massif central, région Rhône-Alpes et Franche-Comté, il pleuvra, enfin, disent certains. Puis samedi et dimanche, eh bien, c'est le dernier congé de l'été, hein, c'est samedi et dimanche, dernier week-end de l'été. Nous allons faire quoi? Eh bien, nous allons avoir un temps frais, très frais.
De la fraîcheur.
Très frais. Pour la rentrée scolaire, ce sera frais, très frais.
Voilà, qui va nous faire rentrer, remettre des gilets.
Bon, on ne regrettera pas d'être parti.
Laurent Cabrol, la météo. Merci mon cher Laurent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal. Il est 7h30.
Dans l'éducation nationale, à quelques jours de la rentrée, on ne sait toujours pas ce qu'on fait si on a 2, 3 ou 4 cas dans une classe.
L'inquiétude des enseignants alors que le retour des élèves est imminent. Une rentrée sous Covid, les profs réclament plus de précisions sur les protocoles à appliquer. Le coronavirus qui perturbe même les vendanges, elles viennent de démarrer. Difficile de concilier masque sur le visage et hôte sur le dos. L'émotion à Lyon et sur les réseaux sociaux après l'agression d'un adolescent de 17 ans en plein centre-ville. Il aurait tenté de défendre des jeunes filles qui se faisaient importuner. La tension monte en Biélorussie entre le gouvernement et ses opposants. Certains préfèrent s'exiler. Reportage de notre envoyé spécial à retrouver dans ce journal. Facebook passe à la caisse, 106 millions d'euros d'amende pour le géant du web qui n'a pas déclaré l'intégralité de ses revenus en France. Et puis l'un des meilleurs restaurants du monde, victime de son succès, ça se passe près de Lannion, en Bretagne. La réussite de l'établissement n'est visiblement pas au goût de tous.
Juste après ce journal, Philippe Juvin, chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, Paris, maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. C'est dans Europe Matin à 7h40, une rentrée qu'il faut gérer avec l'épidémie, on vous l'a dit. À 7h50, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a toujours pas réglé le problème de la violence en France. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus qu'une semaine donc avant la rentrée des classes. Et pour les parents et les professeurs, il y a toujours beaucoup de questions autour du protocole sanitaire à appliquer.
Le ministère de l'Éducation nationale assure être prêt, mais les enseignants se disent dans le flou. Ils n'ont pas encore reçu de consignes précises alors que le retour des élèves approche à grands pas. Que faire par exemple en cas de contamination détectée dans une classe, Théo Manval?
Eh bien, dès qu'elle apprend qu'un de ses élèves ou enseignants a contracté le virus, la direction de l'établissement devra avertir son rectorat, la préfecture et l'agence régionale de santé. Et les autorités sanitaires devront organiser dans les 48 heures le dépistage de toutes les personnes contacts. Ça veut potentiellement dire tester toute une classe, les professeurs ou même des surveillants. Et en fonction des résultats de ces tests, nous dit-on au ministère, mais aussi en fonction de paramètres locaux, la taille de l'école, la situation sanitaire dans la zone, l'ARS préconisera de fermer ou non une classe ou tout un établissement. Ce sera donc du cas par cas, ce qui déroute un peu les enseignants comme Sophie Vénétité du syndicat SNES-FSU.
Par exemple, le Tour de France, dans quelques jours, les informations sont beaucoup plus claires. On sait qu'il y a 2 cas positifs, une équipe est exclue. Dans l'éducation nationale, à quelques jours de la rentrée, on ne sait toujours pas ce qu'on fait si on a 2, 3 ou 4 cas dans une classe.
Ce protocole rassure quand même les organisations de parents d'élèves qui insistent, il faudra tenir les délais sur les tests pour éviter que la psychose ne monte. Une étude de l'Institut Pasteur menée au printemps dans des écoles de l'Oise a en tout cas de quoi rassurer. Sur les 1300 personnes suivies, seule une soixantaine d'enfants contaminés, essentiellement au sein de leur famille et avec des symptômes bénins.
Les explications de Théo Manval. Aujourd'hui, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense consacré à la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
L'évolution de l'épidémie, la circulation propagation du virus. On va en parler juste après ce journal avec le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Il sera mon invité, c'est dans moins de 10 minutes.
Et le coronavirus et ses contraintes qui s'invitent jusqu'au cœur des vignes. Le top départ des vendanges a été donné, des vendanges très précoces encore une fois, et avec une ambiance particulière. Pas de prêt de matériel, du gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire et test PCR avant de commencer à couper le raisin. Face à l'aggravation de la situation sanitaire, il faut faire avec. Pour Europe 1, François Coulon s'est rendu dans un vignoble de la Effouissière, près de Nantes.
Dépistage à la chaîne chez les saisonniers avec un verdict implacable. Karine Sartori, directrice d'un groupement d'employeurs.
On a 6 cas positifs sur 72. Ça met un petit peu de pression sur les vendangeurs parce que du coup, il y a ce couperet un petit peu « je suis positif, je suis négatif ». Donc j'ai un contrat ou j'ai pas de contrat.
À la Effouissière, le vigneron bio Jolambron va désinfecter quotidiennement le matériel de ses 80 vendangeurs, dotés de masques et de gel et espacés d'1,40 m. Mais dit-il, à l'impossible, nul n'est tenu.
Les gens qui portent la hotte, c'est-à-dire 50 kg de vendange sur le dos, ils ne peuvent pas porter le masque. C'est pas possible. On peut pas faire un effort physique avec un masque comme ça.
Dans la parcelle des Houes, beaucoup de saisonniers portent le masque au menton, comme André.
On est obligé de désinfecter les mains, mettre les masques. Il fait chaud, il n'y a pas de vent. C'est plutôt chiant. Demain, on va être 80. Ce sont des gens qui fréquentent d'autres gens. Il se peut que le coronavirus soit parmi nous demain.
Et donc, vous allez mettre le masque vous-même?
Ah bah oui, il faut se protéger. C'est impératif.
Le millésime 2020 s'annonce très prometteur, mais depuis avril, les ventes du domaine Lambron ont chuté de 60%. La Effouissière, François Coulon, Europe 1.
Cette affaire à présent qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans le milieu politique. Laurent Wauquiez, président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis plusieurs élus du Rassemblement National dénoncent sur Twitter l'agression d'un adolescent de 17 ans.
Augustin, frappé en pleine rue à Lyon vendredi soir, sa famille affirme qu'il tentait de défendre un groupe de jeunes filles. Alors que sait-on à ce stade, Jean-Jacques Herry?
Les faits se seraient déroulés vendredi soir, place Bellecour, en plein cœur de la cité des Gaules. Selon le frère de la victime présumée, il est 23h lorsque le jeune homme de 17 ans aperçoit un groupe de 5 personnes en train d'agresser des filles à un arrêt de bus. Il se serait alors dirigé dans leur direction pour tenter de les défendre, essayant de retenir leurs agresseurs afin que les jeunes filles puissent se réfugier dans une supérette voisine. À 5 contre lui, ils l'ont fracassé gratuitement, conclut le frère. Toujours selon lui, personne n'est intervenu pour aider son frère, le laissant avec plusieurs dents cassées et une fracture de la mâchoire. Selon le site d'information Lyon Mag, l'adolescent s'est ensuite rendu à l'hôpital sans visiblement faire appel aux pompiers. Ce soir-là, la police indique également n'avoir reçu aucun appel ni de la part d'éventuels témoins ni de la victime elle-même. Toujours selon Lyon Mag, une enquête pour violence volontaire en réunion a été confiée au commissariat du 2e arrondissement de Lyon. La police compte maintenant exploiter la vidéosurveillance pour essayer de recueillir des indices. En parallèle, un appel à témoins a été lancé pour tenter de comprendre les circonstances de l'agression et en identifier les auteurs.
Jean-Jacques Herry. 3 mois après la mort de George Floyd, étouffé par un policier blanc aux États-Unis, un nouveau scandale secoue le pays après une nouvelle bavure dans le Wisconsin.
Jacob Blake, un père de famille afro-américain, a été grièvement blessé par balle par des policiers. La scène a été filmée et largement diffusée sur Internet. Des rassemblements ont eu lieu hier soir dans cet état du nord des États-Unis. Pas de justice, pas de paix, scandaient les manifestants.
Direction la Biélorussie, à présent, où la pression exercée par le pouvoir monte encore d'un cran. Le pays entre dans sa 3e semaine de contestation après la réélection d'Alexandre Loukachenko à la tête du pays.
De nouvelles manifestations ont secoué Minsk, la capitale. Hier, les autorités ont à nouveau arrêté des opposants au gouvernement. Parmi eux, 2 membres du conseil de coordination et Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, qui sera convoquée par la police demain.
Alors du côté des contestataires, on préfère fuir le pays temporairement, comme ce jeune étudiant qui a trouvé refuge en Lituanie. Il s'est confié à Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial à Vilnius pour Europe 1.
Timofey l'affirme haut et fort, il a voté pour l'opposante Tikhanovskaya, a participé aux premières manifestations le lendemain des résultats, mais au bout de 4 jours de tension, ce n'est pas uniquement la peur qui l'a poussé à partir.
You just feel tired,
vous finissez par être épuisé mentalement. Vous êtes sur vos gardes à chaque minute. La police peut vous arrêter et vous emmener en prison pour vous torturer. Donc, il faut fuir à l'instant où vous comprenez que c'est l'heure.
La voix est nouée lorsqu'il dit vouloir simplement reprendre des forces à Vilnius avant de rejoindre le mouvement, car malgré un visa en règle, il ne sait pas quand il va rentrer chez lui.
S'il le faut, je resterai ici. Notre président est imprévisible et la peur est ancrée au fond de mon cœur et de mon âme, encore aujourd'hui, car je ne sais pas si cette répression va reprendre.
this could not happen again.
Une répression qu'il compare à une maladie.
A disease which is called like Lukashenko's regime.
Une maladie qu'il nomme le régime Loukachenko. Vilnius, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
C'est une amende salée pour Facebook. Le géant américain va devoir payer 106 millions d'euros à la France. Alors ce n'est pas un cadeau sorti nulle part, non. En réalité, Clément Le Saffre, il s'agit d'un redressement fiscal.
Oui, c'est un arriéré d'impôt sur les sociétés correspondant à la période allant de 2009 à 2018. C'est assez rare pour être souligné. Ce paiement faisait l'objet d'un litige avec les autorités françaises depuis plusieurs années. 106 millions, c'est une somme rondelette, mais ça reste une goutte d'eau évidemment comparée aux revenus de Facebook dans le monde. Le gouvernement rappelle régulièrement que les impôts payés par les géants du numérique en France sont trop faibles par rapport à leur poids réel dans l'économie. Finalement, Facebook et le fisc sont parvenus à un accord comme Google et Amazon l'avaient fait en 2018 ainsi qu'Apple l'an dernier. On en saura pas plus sur le pourquoi et le comment de ce paiement puisque Bercy invoque le secret fiscal. Mais Facebook s'est tout de même fendu d'un commentaire. Nous prenons nos obligations fiscales au sérieux et nous payons les impôts que nous devons dans tous les marchés où nous opérons. C'est ce qu'assure le réseau social et il a même ajouté un bonus de transparence. Facebook France a donc révélé avoir payé 8,5 millions d'euros d'impôts sur les sociétés rien que pour l'année 2019. Et c'est tout de même 50% de plus qu'en 2018.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Et puis c'est un succès amer pour le restaurant La Voile Blanche près de Lannion dans les Côtes d'Armor. Restaurant qui vient d'être élu deuxième meilleure table du monde par la plateforme TripAdvisor.
Oui, donc ses propriétaires devraient en profiter normalement. Seulement voilà, tout le monde n'apprécie pas la distinction et l'enthousiasme a vite laissé place à la déception. Charles Guyard.
Alors ici madame, monsieur, pour vous mettre en appétit, un gazpacho de concombre et miel.
Elle n'est arrivée qu'en novembre dernier, c'est, dit-elle, son premier job. Et voilà Margarida, 19 ans, serveuse dans le deuxième meilleur restaurant du monde.
Ça marche de gourmet, de zabé, de soufflé.
Une consécration qui n'émeut pas la jeune fille, même si depuis la publication du classement, la cadence est un peu plus soutenue.
Ça a changé le rythme du service, on a plus de clients. C'est pas pour autant que j'ai changé mes manières.
Plus de clients, c'est certain. Midi et soir, les 35 à 40 couverts affichent complet, il faut réserver au moins une bonne semaine à l'avance. Cette frénésie soudaine, le chef Ivan Djougliel-Metti et sa compagne Maud n'en sont pas peu fiers, mais à vrai dire, ils s'en seraient bien passés vu les conséquences sur leur quotidien.
On a eu quelques lettres disant que c'était une mascarade.
Suite à ça, là, on a installé un système d'alarme parce qu'il y a beaucoup de passages, de personnes étranges qui se disent « il est là le restaurant ». Ça fait un petit peu peur, hein. Genre plus la nuit. Donc.
C'est vrai qu'on a peut-être un peu des gens soit méchants ou peut-être un peu jaloux, je ne sais pas, et ça fait un petit peu mal au cœur parce qu'on prend ça avec beaucoup d'humilité.
Et pour maintenir la même qualité de service, la Ville Blanche recherche maintenant un chef de rang et un sommelier notamment. Les débutants sont les bienvenus, sachant que travailler dans le deuxième meilleur restaurant du monde constituera une référence assurément élogieuse.
Bonne dégustation.
Rospès, Charles Guyard, Europe 1.
Bah oui, non mais attendez, faut les soutenir, faut aller manger
c'est
là-bas
vrai,
du
ça.
Coup, enfin, quand on peut aider.
C'est bien la moindre des choses.
L'Agnon, dans la journée, ça va faire un peu court peut-être. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Ce matin, les tensions en Méditerranée, la France, la Turquie, présence militaire, échange de mots. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le docteur Ismail Akimusa, ambassadeur de la Turquie en France. C'est sur Europe 1. Tout de suite, ce conseil de défense Covid à l'Elysée ce matin. Les différents protocoles sanitaires, comment préparer la rentrée à l'école, au bureau. Dans Europe Matin, mon invité, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Simplement, avant même de parler de cluster, de vagues, etc. Professeur, est-ce que l'épidémie repart ?
Ah, c'est sûr qu'on a plus de malades actuellement qu'on en avait il y a un mois. Oui, il y a plus de malades. Ouais.
On va parler de la pression hospitalière, le comportement des Français, tête à tête avec Philippe Juvin. C'est à suivre sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et à 7h44, entretien avec Philippe Juvin. Merci d'être avec nous ce matin, Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. On va utiliser vos deux casquettes ce matin, l'élu local. Mais d'abord,
allez-y.
Je vous demandais si l'épidémie repart, parce que la rentrée, ce sont des rentrées finalement, retour au travail, retour de vacances, les enfants sur le chemin de l'école. On a déployé la population dans le pays, puis là on va tous se remélanger à nouveau. On va quoi ? On va multiplier, faire exploser le nombre de petits clusters dans le pays là ?
Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le virus circule, quand vous avez déconfiné la population, forcément, le virus a infecté des gens qui n'étaient pas infectés. C'était logique. Donc, qu'on ait des cas positifs, il faut s'y attendre. Voilà, on va en avoir de plus en plus. Le vrai sujet,
parce qu'on teste plus aussi.
Alors, d'une certaine manière, oui, mais il faut savoir que ce n'est pas toute l'explication, parce que quand vous testez 100 personnes, vous avez plus de positifs aujourd'hui qu'il y en avait il y a un mois. Donc, il y a un effet test, mais pas tant que ça. Non, le sujet, c'est est-ce qu'on aura sur ce lot beaucoup de cas graves, il y en aura quelques-uns. Est-ce qu'il y en aura trop pour déborder le système de santé? Elle est là, l'inconnu.
Mais ce qu'on craint, on l'a beaucoup dit, on peut le répéter, c'est le surnombre aujourd'hui. Vous, à l'hôpital, qu'est-ce que vous observez? On est très loin de ce qu'on a connu au printemps.
Oui, on est très loin. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de cas qui nous viennent aux urgences. Dans toutes les classes d'âge, d'ailleurs, on a dit les jeunes. C'est vrai, il y a plus de jeunes proportionnellement qu'il y en avait au mois de mars, mais c'est toutes les classes d'âge qui sont touchées. Mais il y a quelques cas graves, mais pas tant que ça. Donc, on est loin de la situation du mois de mars.
Et puis, le Covid a surpris le monde entier. C'est une réalité. Est-ce qu'au moins, on a retenu la leçon? Si aujourd'hui, l'épidémie s'emballait, est-ce qu'on est mieux armé à l'hôpital?
Alors, on saurait mieux faire les choses parce que, par définition, on a pris des habitudes, on sait mieux traiter les gens. Est-ce qu'au plan collectif, on est mieux armé? Ça dépend des sujets. Par exemple, sur les lits de réanimation qui nous ont tant manqué, c'est pour ça qu'on a confiné d'ailleurs. Nous en avions 5000 au mois de mars. Je ne suis pas certain qu'on en ait vraiment plus que 5000 actuellement.
Vous n'êtes pas certain qu'il y en ait plus?
Non.
Pas certain qu'on ait déployé
en tout cas,
plus
je vois pas
de force? Vous êtes à l'hôpital.
Le président de la République, le 10 ou 11 avril, avait dit « Nous commandons 10 000 respirateurs. » Moi, il ne me déplairait pas de savoir où ils sont.
C'est à noter. Et puis, on sait mieux le traiter, le Covid aussi. Ça, il faut le souligner aujourd'hui, parce qu'on a progressé sur la recherche, sur l'expérience.
Typiquement, on n'a toujours pas de médicament qui tue le virus, mais on sait prendre en charge mieux les patients. Par exemple, je vous donne un exemple, un certain nombre de patients meurent d'embolie pulmonaire, qui est une sorte d'hypercoagulabilité du sang. Eh bien, les patients, désormais, on les met sous anticoagulants beaucoup plus précocement. Et il est probable qu'on évitera des morts ou des séquelles graves aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas au mois de mars.
Je m'adresse aussi à l'élu local. Vous êtes médecin, Philippe Jevin, mais maire de la Garenne-Colombes, maire des Républicains. Vous les sentez comment? Pardonnez-moi, c'est un peu large. Les gens, vos administrés, aujourd'hui, par rapport à ces mesures que l'on prend, il y a de l'agacement, on porte le masque, mais on râle un peu, puis on le porte mal.
Les gens ont besoin qu'on leur explique des choses, qu'on leur dise les choses, y compris quand on ne les sait pas. Bref, ils ont besoin de transparence et aussi d'une certaine autorité, c'est-à-dire que des décisions doivent être prises. C'est une maladie nouvelle. Le virus, on ne le connaissait pas il y a un an. Donc forcément, les décisions qu'on peut être amené à prendre peuvent être des décisions qui peuvent être rapportées parce qu'on découvre les choses. Mais le pire, c'est de ne pas décider. Et on a un peu l'impression que les autorités gouvernementales souvent ne décident pas. Prenez l'exemple des écoles. Jean-Michel Blanquer a raison de dire qu'il faut retourner à l'école et ça, il faut l'applaudir. Mais une question est posée, d'ailleurs, pas par moi, mais par les pédiatres. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un cas dans une classe? Est-ce qu'on ferme la classe? Est-ce qu'on teste la classe? Est-ce qu'on ferme l'école? Est-ce qu'on teste l'école? Etc. etc.
On a raconté la procédure dans le journal de 7h30, mais
vous
on
avez
sait
comprise,
que le protocole
pardon,
sanitaire est amené à évoluer encore.
Je vous ai entendu cette procédure. Elle est incompréhensible. Personne ne comprend ce qu'il faut faire. Le sujet, c'est que l'absence de clarté dans les indications fait que les gens n'ont plus confiance. Si vous voulez que les gens portent le masque, si vous voulez que les gens fassent des efforts, il faut qu'ils aient l'impression de participer à une œuvre collective. Regardez l'affaire des masques dans les lieux clos. La décision a été prise de les rendre obligatoires. Mais pourquoi? Parce qu'à quelques-uns, nous avons fait une tribune, nous avons fait du tambour, nous avons tapé sur la table en disant « il faut y aller ». Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils ont une difficulté à prendre des décisions.
Je vous ai lu, hein, Philippe Juvin,
oui.
Je vous ai lu demander plus de verticalité.
Exactement.
C'est pas dans l'air du temps, pardonnez-moi, parle.
C'est dommage, je vais vous dire. On ne peut pas être à la fois alarmiste, comme le gouvernement l'a été, probablement à juste titre, durant cet été, et en même temps qu'être alarmiste, ne pas prendre de décision pour contrer justement l'alarme qu'on est en train de sonner. Et l'absence de verticalité, d'autorité, en fait, vous la voyez dans la gestion du Covid, vous la voyez dans beaucoup de choses, pardon, mais les débordements dingues auxquels nous avons assisté depuis 3 jours en France, cette violence, c'est quoi? C'est la conséquence d'une absence d'autorité. Il y a un vrai sujet d'autorité en France.
On en parle dans quelques toutes petites minutes avec Nicolas Bétout, d'ailleurs, ces événements que l'on a pu observer. Alors, c'est une double question, mais on va y aller le plus simplement du monde. On ne sanctionne pas assez. Je pense au port du masque, par exemple. On ne verbalise pas assez aujourd'hui, Philippe Juvin?
Je ne sais pas répondre à cette question. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on donne des indications qu'on ne comprend pas et qui sont floues. Regardez l'histoire folle de la carte.
Vous êtes
de
en train de dire qu'ils ont la main qui tremble quand ils prennent une décision, en fait. C'est ce que vous me dites ce matin.
Exactement. J'ai l'impression qu'en fait, la prise d'une décision qui contraindrait est toujours une question qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ils ont du mal à prendre des décisions contraignantes. Or, je suis désolé, quand on gouverne, on prend des décisions et on contraint, y compris parfois en se trompant, mais en sachant le reconnaître, ce qui n'est jamais fait d'ailleurs. L'activité politique est une activité humaine et donc elle est sujette à des erreurs. Eh bien, prenez des décisions. Si vous faites des erreurs, vous en changez, vous le reconnaissez, ce n'est pas grave, mais prenez des décisions. L'hésitation, il n'y a rien de pire.
Vous parliez de la carte de Paris.
Je parle de cette première carte absurde. Vous aviez une sorte de gruyère, vous regardiez la carte. Selon que vous étiez dans la rue numéro 1, il fallait mettre le masque, puis il fallait la retirer sur le trottoir d'en face, puis il fallait la remettre, etc. La lisibilité, elle est fondamentale. La compréhension, elle est fondamentale. Pourquoi les gens n'ont pas confiance ? Parce qu'ils ont l'impression que ceux qui vous gouvernent ne savent pas où ils vont.
Alors Philippe Juvin, vous êtes, je le rappelle, élu local et médecin. Je reviens un peu au médecin, même si ça ne quitte pas vraiment le terrain du maire. C'est vraiment utile le masque à l'extérieur ?
Alors, on ne sait pas. C'est plutôt un principe de précaution qu'autre chose. Ce qui est certain, c'est que c'est probablement utile dans les zones où il y a beaucoup de monde, où il y a une densité. C'est vrai que quand je suis tout seul dans ma rue, c'est probablement totalement inutile. Et donc, on a besoin de lisibilité. Moi, je pense que l'avantage du masque, c'est qu'il ne coûte pas très cher. Ce n'est pas très contraignant. C'est un peu embêtant de mettre un masque. Je ne cache pas que tout le monde râle pour mettre un masque. Mais il y a un tel bénéfice, un ratio entre l'ennui de porter un masque et le bénéfice d'arrêter la maladie qu'il faut le porter par principe de précaution au moins.
Et vous avez dit que ça ne coûte pas très cher un masque. Est-ce que l'État doit prendre en charge un député des Landes, un député de La République En Marche le demande. Dans les Hauts-de-France, on l'a mis en place. Les écoles, les collèges, lycées surtout, les apprentis peut-être, il faudrait que l'État fournisse ces masques ou est-ce que chacun doit se débrouiller? Et puis après tout, c'est une fourniture scolaire.
Dans la commune dans laquelle je suis maire, j'ai distribué 2 masques gratuits lavables en tissu réutilisables à toute la population. Je ne vois pas comment on va pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas gratuit dans les écoles si on veut que les gens l'aient. Alors c'est vrai que l'allocation de rentrée scolaire a été augmentée, je crois, de 100 euros, ce qui est une somme assez considérable. Est-ce que ça doit servir à ça? J'ai été
vous appelez partagé. Ce matin, sans parler du président ou du Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale a distribué ces masques aux élèves?
Je ne vois pas comment on peut faire autrement, je pense qu'il faut le faire. Ouais.
Il faut le faire. Aujourd'hui, concrètement, à la Garenne-Colombes, par exemple, un enfant arrive à l'école, il doit avoir un masque, il n'en a pas, qu'est-ce qui se passe?
Mais il faudra qu'il en ait un, et ben, typiquement, ça fait partie des imprécisions que je dénonçais tout à l'heure. Nous aimerions bien pour les écoles avoir des protocoles qui soient un peu clairs et sans ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait d'un enfant qui arrive sans masque? Le pire serait que dans une école, on fasse quelque chose et dans une autre, on fasse autre chose. Nous attendons du ministre de l'Éducation nationale, comme de tous les ministres, de la clarté et des indications qui ne soient pas ambiguës.
Merci Philippe Juvin.
Merci
beaucoup d'être venu répondre à nos questions ce matin en tête à tête dans le studio d'Europe 1. Philippe Juvin, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, le maire de la Garenne-Colombes, les acteurs de l'actualité en direct avec nous le matin, 7h53. Vous restez bien sur Europe 1 avec à suivre Gérald Darmanin qui n'arrive pas à régler le problème de la violence en France. Ça, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou avant la météo de Laurent Cabrol et le journal de 8h avec François Geffrier. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h55, Europe Matin, et l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Contrairement à ce qui s'était produit dimanche soir après la défaite du PSG, il n'y a pas eu d'incident hier soir à l'occasion du retour des joueurs dans la capitale.
Et pour cause, le préfet de police avait interdit les rassemblements et la consommation d'alcool dans le quartier des Champs-Élysées, par ailleurs fortement quadrillé par les forces de l'ordre. Il faut dire que la nuit précédente avait été émaillée de violences et de saccages incroyables. Carcasses de voitures sur le toit ou calcinées, pare-brise défoncé, vitrines et magasins dévastés, ces supporters-là sont des vandales.
Oui, mais ce ne sont pas tous les supporters.
Ah ben, manquerait plus que ça. Hein. En tout cas, cette violence est un problème politique. On en parlait ici même, hier matin, le chef de l'État a décidé de concentrer son action à la rentrée sur la crise sanitaire et sur la relance économique. Plein feu sur cette double menace, mais il y en a une troisième qui vient, ou plutôt qui revient bousculer l'agenda gouvernemental. C'est la violence, celle de la société, celle des affrontements, celle de la délinquance.
Vous dites qu'il revient bousculer l'agenda. Oui. Effectivement, ce n'est pas un problème franchement nouveau.
Ben non, mais après avoir été sous-estimé et mal géré pendant la première partie du quinquennat, je pense aux Gilets jaunes en particulier, Emmanuel Macron semblait décidé à s'en saisir. Limogeage de Christophe Castaner, nomination de Gérald Darmanin, lequel a tout de suite affiché sa proximité avec la police et commencé à retisser le lien avec elle. Un ministre de l'Intérieur qui s'est également montré intransigeant sur les violences. Enfin, intransigeant en parole. Parce que faire des tweets ou des sauts de puce auprès des victimes, faire des déclarations contre l'ensauvagement de la société ne pourra pas suffire à traiter le problème, surtout lorsque le chef de l'État lui-même évoque maladroitement des incivilités à propos de crimes et d'assassinats.
Alors il s'en est expliqué en fait, il avait repris l'expression du journaliste qui l'interviewait.
C'est vrai, mais mieux vaut bien nommer le mal si on veut le combattre. Voilà, c'est un fait, le sujet est devant eux et il faut des résultats. Parce que cette atmosphère dégradée est insupportable pour la plupart des Français. Et puis parce que le thème de l'autorité est un des grands points faibles d'Emmanuel Macron. Une double faiblesse en réalité. D'abord, au regard des résultats, les cambriolages, les violences aux personnes sont en hausse. Et puis, par rapport à ses adversaires politiques, l'extrême droite a depuis longtemps réussi à être audible sur le thème de la délinquance. Et surtout, la droite républicaine est unie sur ce sujet des violences. C'est même le seul sujet sur lequel il n'y a pas de fracture à droite. C'est là qu'ils sont forts. C'est là que le président de la République est faible. Difficile pour la majorité de faire l'impasse.
Et c'est à suivre de très près. Donc merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. 7h58, Laurent Cabrol nous a rejoint, c'est l'heure de la météo.
Oui, c'est l'heure de vous parler de cette...
Enlevez votre masque. Ça devait arriver un jour, ça. Ça devait arriver, ça c'était sûr. On n'entendait pas bien, ça va être compliqué si vous portez le masque en studio. Ah,
oui, oui,
Laurent,
c'est
à vous.
Alors, je vous parlais de cette dépression qui traverse la France en ce moment. C'est une dépression qui traverse la moitié nord. Et elle est un petit peu pâle des genoux, donc elle ne va pas très vite. Elle est mollassonne. Bon, tant mieux pour ceux qui n'ont pas envie de pluie, mais tant pis pour ceux qui n'en ont pas et qui sont malheureux. Et j'en suis, et qui se disent, j'ai envie de la pluie. Bon, bref, elle passe vite. Elle va traverser tout le pays sur la moitié nord seulement, hein, puisque des régions seront sous le soleil, le sud-ouest, le massif central, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen. Sur toute la moitié nord, nous aurons un passage, disons, humide, plus que pluvieux. Et après ce qu'elle est circulée, eh bien, nous retrouverons pour la journée de demain un temps plutôt sec, avec beaucoup de nuages, certes, mais aussi des éclaircies. Les températures, je vous les donne parce que c'est le dernier point important. 36 degrés dans l'Aude, 34 degrés à Toulouse et Lyon, à Valence 33, 31 à Dijon, 30 à Bordeaux, 29 à Paris, 27 à Strasbourg, 26 à Nantes, 25 à Caen. Ce sont des températures chaudes. Parce que ce sont les dernières chaudes avant la fin de l'été météorologique qui a lieu samedi.
Ouais, le premier, c'est ça ?
Oui, ouais. Le 28-29,
ouais, c'est ça.
Samedi-dimanche. Et ensuite, il va faire très frais pour la semaine prochaine, mais l'été n'est pas fini encore.
De la fraîcheur et du suspense. Merci beaucoup Laurent Cabrol. La météo sur Europe 1, très bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Écoutez Europe Matin, écoutez le monde changer. Il est 8h.
L'objectif, c'est d'éviter des comportements à risque. Un certain nombre d'établissements peuvent être des points de rassemblement importants. Ça, c'est un message de préoccupation.
Situation alarmante selon le préfet des Bouches-du-Rhône qui prend des mesures dans les tout prochains jours pour Marseille. Les bars pourraient devoir fermer le soir. Un conseil de défense se penche sur la rentrée, celle des entreprises, celle du secteur culturel, les théâtres, les cinémas et celle de l'école, avec le souhait exprimé au sein même de la majorité, offrir aux élèves leurs masques puisqu'il est obligatoire, alors que pour le ministre de l'Éducation, c'est une fourniture scolaire comme une trousse. Donald Trump tape sur les démocrates qui ne veulent, selon lui, ni armes, ni pétrole, ni Dieu. Le tiercé gagnant du président, désormais candidat officiel des Républicains à sa propre succession. Un appel au secours dans ce journal, celui d'un homme qui veut mourir. Vous entendrez les mots poignants d'Alain Coq, souffrant d'une maladie orpheline et qui sera aujourd'hui en ligne avec l'Élysée pour demander son euthanasie. Et puis eux terminent l'été avec le droit au rêve, le droit que devraient avoir tous les enfants, partir en vacances, ne serait-ce qu'une journée et voir la mer pour la première fois. Le Secours Populaire organise ce petit miracle.
Juste après ce journal, 10 minutes pour comprendre les enjeux, les tensions en Méditerranée. Sonia Mabrouk reçoit Ismail Hakim Musa, ambassadeur de Turquie en France. Avant votre nouveau rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, attention aux fake news sur la mutation du coronavirus. Le docteur Jimmy Mohamed consulte tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La deuxième ville de France va-t-elle devoir revivre des restrictions aux libertés de déplacement et de rassemblement ? Marseille fait face à des données épidémiques inquiétantes. Plus de 7% des tests sont positifs contre 3,5% au niveau national.
On n'en est pas au reconfinement partiel évoqué par le président de la République, mais des mesures se préparent pour les prochains jours, voire les prochaines heures, Nathalie Chevance.
Avec un taux d'incidence du virus de 145 pour 100 000 habitants, 4 fois plus que la moyenne nationale, la situation à Marseille est qualifiée de préoccupante. Le nouveau préfet, Christophe Miremont, envisage donc plusieurs mesures. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou encore la fermeture le soir des bars et restaurants.
Eh bien, ça peut être des mesures visant à restreindre les heures d'ouverture de tel ou tel établissement. L'objectif, c'est d'éviter des comportements à risque. Parfois, un certain nombre d'établissements peuvent être des points de rassemblement importants, parfois plusieurs centaines de personnes. Ça, c'est un message de préoccupation.
Trop de relâchement dans les comportements, les contrôles sur le port du masque obligatoire en centre-ville devraient être renforcés, mesure nécessaire pour cette Marseillaise venue se faire dépister.
Il faut qu'il y ait plus de distanciation, les gens ont vraiment oublié. On l'a vu sur les plages, les gens vous collent. Après les bars, je ne pense pas qu'ils aient vraiment respecté la distanciation entre les tables. Mais pas qu'il y ait tous ces attroupements dans la rue ou sur le vieux port, donc peut-être que la police devrait intervenir. Mettre peut-être un couvre-feu.
Et pour les autorités, l'objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter un reconfinement au niveau local. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Aucun doute que la situation des Bouches-du-Rhône sera scrutée tout à l'heure au Conseil de défense à l'Élysée. Réunion qui doit trancher cette question. Est-ce le moment de lâcher du lest ou de resserrer la bride sanitaire ?
La réponse ne sera sans doute pas la même d'un secteur à l'autre. La culture, les entreprises, mais aussi les écoles où a lieu la rentrée. Dans pile une semaine, certaines règles sanitaires, Jérémy Bodo, vont être retouchées.
Oui, notamment le protocole dans les écoles qui, selon nos informations, va être réévalué ce matin à l'Élysée. C'est le ministre Jean-Michel Blanquer qui l'a reconnu hier devant les syndicats. Il va y avoir des ajustements, particulièrement dans les territoires où le virus est le plus virulent. Dans ces ajustements, un point fait par ailleurs débat. Le coût des masques pour les élèves. Le ministre s'est dit opposé à ce que l'État les distribue gratuitement dans les établissements. Un conseiller décrypte. On n'est pas dans le monde des bisounours. On ne peut pas tout distribuer. Fin de citation. Sauf que la pression est forte pour que ces masques soient gratuits pour les élèves de plus de 11 ans. Au sein même de La République En Marche, des voix s'élèvent pour demander cette gratuité. C'est une mesure de bon sens, clame une macroniste. Pour l'heure, les membres du gouvernement semblent plutôt contre, mettent en avant la hausse de l'allocation de rentrée ou les masques envoyés directement à plus de 8 millions de Français précaires par la poste cet été. Mais comme souvent, c'est Emmanuel Macron qui pourrait avoir le dernier mot. Comme s'en amuse un conseiller, on est en Macronie. Tout peut toujours changer.
Les indiscrétions de Jérémy Bodo du service politique d'Europe 1 et sans attendre un éventuel geste de l'exécutif, la région des Hauts-de-France va fournir à tous ses lycéens et apprentis un masque gratuit réutilisable. Idem pour le département des Landes, pour ses collégiens.
Le monde du spectacle, lui, aimerait un assouplissement des conditions en vigueur. Demande précise et concrète formulée ce matin en direct sur Europe 1 par Jean-Marc Dumonté, producteur et propriétaire de plusieurs théâtres.
Nous réclamons la suppression de la limitation de la jauge, parce qu'aujourd'hui on peut jouer dans nos théâtres depuis le 22 juin, mais avec une jauge limitée, ce qui crée un message assez confus pour le public. Au fond, si on souhaite cette suppression, c'est parce qu'il faut donner une grande impulsion. On peut jouer, mais il y a une confusion dans le public, parce qu'on ne peut jouer qu'avec une jauge réduite, donc ça envoie un signal qui serait à risque. Or, ce n'est pas à risque, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les trains sont bondés, les avions sont bondés, et il n'y a aucun cluster, il n'y a aucun foyer qui a été déclenché dans ces lieux. Donc ça veut dire qu'on peut être côte à côte. Ce qui est extrêmement important, c'est de porter un masque. Quand on porte un masque, on a beaucoup, beaucoup de chances de passer un très bon moment dans un théâtre sans aucun risque. Plus on attend, plus ce sera difficile. Je préfère très largement jouer en perdant de l'argent que perdre de l'argent sans jouer. Parce que notre raison d'être, c'est jouer.
Jean-Marc Dumonté, invité de Sébastien Krebs, c'était tout à l'heure à 6h40 sur Europe 1. En politique, le ministre de l'Intérieur le sera bientôt à 100% de son temps.
Gérald Darmanin va démissionner samedi de son poste de maire de Tourcoing, mais il précise sur Twitter qu'il redeviendra maire dès sa mission nationale terminée.
Aux États-Unis, nouvel accès de colère et des manifestations depuis dimanche soir au slogan de No Justice, No Peace. Pas de justice, pas de paix. Des milliers de personnes rassemblées, notamment autour du tribunal de Kenosha dans le Wisconsin. C'est là que s'est produit ce week-end ce qui semble être une bavure terrible. Un homme noir de 29 ans a reçu plusieurs balles dans le dos à bout portant alors qu'il retournait à sa voiture.
On entend cette détonation sur cette vidéo, donc diffusée sur Internet. C'est un policier qui fait feu. L'homme se nomme Jacob Blake. Il est hospitalisé et son état est en voie d'amélioration, selon sa famille.
L'affaire intervient tout juste 3 mois après la mort de George Floyd, un homme mort étouffé sous le genou d'un policier au terme de 9 minutes d'asphyxie et qui avait déclenché un grand élan populaire et des manifestations contre les violences policières et contre le racisme. Cette nouvelle affaire, Donald Trump n'en a pas dit un mot, hier soir dans son discours à la convention du Parti républicain.
Elle doit donner un coup d'accélérateur à la campagne du président sortant. Il a prévu de s'exprimer tous les jours jusqu'à jeudi, contrairement à son concurrent démocrate Joe Biden, qui avait réservé sa parole pour le dernier jour.
Donald Trump, qui reste donc fidèle à lui-même, Xavier Yvan.
Les Républicains l'avaient promis, leur convention aurait un ton positif. Mais dès sa première prise de parole, Donald Trump a attaqué ses adversaires démocrates, les accusant de vouloir tricher.
What they're doing is using COVID.
Ils se servent du Covid pour voler l'élection avec le vote par correspondance, a dit le président. Et les démocrates au pouvoir, ce serait l'apocalypse, martèle Donald Trump. Ils ne veulent ni Dieu, ni armes, ni pétrole. Trois péchés capitaux pour les républicains. La première soirée de leur convention a continué sur la même tonalité.
They want to destroy this country.
Biden et les démocrates veulent détruire ce pays et Donald Trump est le sauveur.
The defender of Western civilization.
Le défenseur de la civilisation occidentale.
President Donald J. Trump.
Le président était partout, dans les discours des orateurs, dans un clip vidéo réécrivant l'histoire de son action contre la pandémie, ou en personne à la Maison Blanche pour des séquences avec des anciens otages et des Américains de tous les jours. Tout cela pour dresser des louanges au président sortant. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
8h08 sur Europe 1. Son entourage dénonçait depuis la semaine dernière une tentative d'empoisonnement. Cela semble se confirmer selon les analyses subies par Alexei Navalny à Berlin.
L'opposant à Vladimir Poutine est toujours dans le coma depuis sa prise en charge en Sibérie et son transfert en Allemagne. La chancelière Angela Merkel appelle maintenant la Russie à juger les coupables, Jean-Jacques Herry.
Jusqu'ici, il n'y avait que des doutes. Seuls les proches d'Alexei Navalny parlaient ouvertement d'un empoisonnement intentionnel. Avec ses résultats médicaux allemands, il y a maintenant un début de preuve. Et si le poison n'a pas encore été formellement identifié, selon l'hôpital berlinois, il pourrait s'agir d'un inhibiteur de la cholinestérase, une substance à visée thérapeutique quand elle est utilisée à faible dose, mais extrêmement dangereuse lorsque la concentration est plus importante. Face à ces conclusions accablantes, les médecins russes qui ont soigné Navalny à l'hôpital d'Omsk, eux, continuent d'affirmer n'avoir trouvé aucune trace de poison, niant également avoir reçu des pressions extérieures. Anna Colin-Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques, exprime ses doutes.
La liberté de parole des médecins à Omsk en Russie et des médecins de la clinique allemande n'est bien évidemment pas du tout la même. Il y a eu des images de personnes en civil qui étaient là à surveiller les paroles du personnel médical. On a rapporté une présence policière extrêmement forte. La tension qui pesait sur les médecins était importante.
Une controverse médicale qui se transforme chaque jour un peu plus en contentieux diplomatique. Après l'Allemagne, c'est en effet l'Union européenne, hier soir, qui a appelé Moscou à une enquête transparente et indépendante dans cette affaire.
L'Allemagne qui place l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur en zone à risque pour le coronavirus. Les voyageurs revenant en Allemagne en provenance de ces deux régions françaises devront donc se soumettre à un test de dépistage et rester isolés dans l'attente des résultats.
Dans un instant, sur Europe 1, la suite du journal. Le témoignage d'un homme atteint d'une maladie orpheline et qui réclame à Emmanuel Macron le droit de mettre fin à ses jours.
Je suis alimenté par aliments liquides. On va me gaver, je ne veux pas vivre ça, je demande à partir.
Et puis, on les appelle les oubliés des vacances, des enfants emmenés au bord de la mer aujourd'hui par le Secours Populaire.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
À 8h11, la suite du journal, François Geffrier.
C'est un cri de douleur que vous allez entendre ce matin sur Europe 1, celui d'un homme de 57 ans fatigué par des années de souffrance et qui veut en finir. Il l'a décidé, il mourra le 4 septembre. Alain Coq, qui souffre d'une maladie orpheline, interpelle de nouveau le président de la République.
Il pourra s'entretenir aujourd'hui en visioconférence avec la conseillère santé d'Emmanuel Macron. Sa souffrance est devenue insupportable.
Quand la douleur vous réveille, c'est bien que dans le sommeil, vous souffrez. Maintenant, à cause des douleurs, je suis cloué dans mon lit, je ne peux plus m'asseoir. Hein. La dernière fois où j'ai pu m'asseoir dans mon fauteuil, ça a été de courte durée. C'est en novembre 2018, donc je suis alimenté par aliments liquides. on va me gaver, je ne veux pas vivre ça, je demande à partir. Je lui ai demandé qu'un médecin puisse me délivrer un produit avec lequel, en le prenant moi-même, je m'endormirai. Et dans les 10 à 20 secondes qui suivent, ce sommeil soit éternel. Et si on m'oblige à priver d'alimentation, d'hydratation, de traitement et l'hydratation, c'est ce que je ferai le 4. Hein. Ma décision de manière est prise. Là, cette phase-là, juste avant ma mort, on m'aura mis en situation d'indignité, car on m'aura empêché le droit d'avoir le choix.
Ce témoignage prenant, recueilli par Mathieu Bock pour Europe 1.
Difficile de voir une jurisprudence dans les affaires opposant des patrons de restaurants avec leur assureur. Des décisions successives se contredisent.
Oui, un tribunal de Bourg-en-Bresse a débouté un restaurateur face à son assureur. Il lui réclamait des dédommagements pour ses pertes financières liées au coronavirus. Un autre restaurateur, quelques heures plus tôt, a fait condamner AXA, Jean-Michel Alazard, patron d'un établissement à Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône.
J'étais soulagé et surtout très heureux. Enfin, la boule au ventre est partie. C'est vrai que travailler dans des conditions où on sait qu'on travaille quasiment pour rien, puisqu'on a perdu énormément, c'est compliqué. Voilà. Cette somme d'argent va nous permettre surtout de nous reconcentrer sur notre travail et d'avancer avec un peu plus de sérénité. J'espère que ça va aider énormément de monde. Moi, ça va aider mon entreprise. Ça va aider mon état d'esprit aussi à reprendre des forces pour attaquer la deuxième partie du Covid, parce qu'on voit qu'elle arrive. Et surtout, j'espère que ça va sauver des entreprises, que ça va aider aussi des confrères à moi et que ça va apporter un plus à tout le monde. Voilà. On fait un beau métier, on essaie d'assurer une belle prestation, même avec les barrières, les mesures sanitaires, le masque. On essaie quand même de garder la dynamique qu'on avait avant. Et puis voilà, j'espère que ça va en aider énormément, effectivement.
Jean-Michel Alazard, joint par Clément Le Saff pour Europe 1.
C'est le money time pour les vacances d'été. Le temps commence à se rafraîchir, voire à s'humidifier. Mais certains ont attendu toute l'année et parfois même toute une vie pour cette journée du 25 août 2020.
Ce sont les enfants pris en charge par le Secours Populaire et qui vont vivre cette journée sans doute exceptionnelle. Marion Gauthier, vous êtes au départ d'un car qui doit partir pour Cabourg. Vous êtes dans le quartier du Châtelet à Paris. On imagine les enfants encore un peu endormis autour de vous.
En fait, pas du tout. Ils étaient une quarantaine à trépigner, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le car qui allait les emmener donc à Cabourg. Certains n'ont pas eu besoin qu'on les réveille ce matin. Fanny et Fiona étaient parmi les premières arrivées. Elles ont attendu ici plus d'une heure.
Nous étions trop excités, nous sommes vraiment pressés. Et je me suis bien réveillée. On n'a même pas peur d'aller à la plage. Moi, j'ai un peu peur. Elle fait trop froide pour elle. Ça fait longtemps qu'on attend. Nous ne sommes pas partis et aujourd'hui, c'est notre premier jour.
Les premiers jours de vacances après un long confinement, raconte Safia, une maman survoltée d'envoyer ses deux enfants en Normandie, goûter pour la première fois l'eau salée, même si elle est froide, sentir pour la première fois le sable sous leurs pieds.
C'était une surprise, c'était extraordinaire quoi, d'aller voir la mer, parce qu'on a passé une mauvaise période. Quoi. Le travail, gérer les deux enfants. C'était très très dur. Et là, c'est l'occasion d'avoir un grand bol d'air. Je leur ai donné une bouteille pour me ramener un peu d'eau.
Et à l'instant, le car vient de partir et je peux vous dire qu'il s'est rempli en moins de 2 minutes. 40 enfants donc, au lieu des 800 habituellement, Covid oblige. Retour prévu vers 22h et on m'a chuchoté à l'oreille que toute la nuit était déjà réservée pour raconter cette journée très spéciale.
Un reportage en direct de Marion Gauthier. Vous connaissez les parapluies de Cabourg?
Oui.
C'est un nouveau concept de film que je vous propose.
J'allais dire c'est Cherbourg en fait, mais j'étais en train de réfléchir en même temps. Merci François Geffrini, vous m'avez piégé. Les parapluies de Cabourg, ça sonnait bizarre. Et il est 8h16 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. C'était le journal de 8h. Merci François. Sonia Mabrouk nous a rejoint. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va parler ce matin sur Europe 1 d'une grave crise en cours. Non, ce n'est pas la crise sanitaire. Non, ce n'est pas la crise économique. C'est la crise géopolitique en Méditerranée orientale qui nous concerne au premier plan. Jusqu'où ira l'escalade entre la France et la Turquie? Question directe ce matin à mon invité à suivre, l'ambassadeur turc en France, Ismaël Akimoussa.
A tout de suite sur Europe 1, il est 8h16.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h18 sur Europe 1, très bon réveil à tous. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le docteur Ismaël Akimoussa, ambassadeur de Turquie en France.
Bienvenue à vous et bonjour monsieur l'ambassadeur Ismaël Akimoussa.
Bonjour.
On va évoquer l'actualité brûlante ce matin, la Turquie qui vient de découvrir un immense gisement de gaz naturel en mer Noire. Le président Erdogan prévient que les recherches vont se poursuivre en Méditerranée orientale, malgré, monsieur l'ambassadeur, les très fortes tensions dans la région. Vous êtes prêt à prendre le risque aujourd'hui d'un engrenage dangereux ?
Vous savez, on n'est jamais seul quand il s'agit de prendre des risques. Dans la vie, il y a toujours des risques. Vous avez parlé de découverte de gisements dans la mer Noire. Ça a été annoncé vendredi dernier par notre président. C'est le fruit des recherches qui ont été lancées, commencées déjà depuis 3 ans. Ce dont il s'agit pour le moment, il s'agit de 320 milliards de mètres cubes, dont la valeur vénale est estimée à quelque 80 milliards de dollars.
C'est sûr, c'est un gisement important.
C'est important, c'est considérable. Les spécialistes estiment que ça vaut 7-8 ans pour le besoin énergétique du pays, puisque nous importons quasiment les 100% de notre consommation en gaz naturel et les 90% en pétrole.
C'est entendu, monsieur l'ambassadeur. C'est important pour la Turquie. Mais ma question, c'est en effectuant ses recherches et ses forages en Méditerranée orientale, dans les eaux territoriales de Chypre et à proximité de la Grèce, est-ce que vous ne provoquez pas sciemment les Européens ?
Nous ne provoquons personne. Ce dont il s'agit, il faut bien qu'on en soit conscient. La Turquie a fait enregistrer auprès des Nations Unies ses eaux territoriales. Ça fait une dizaine d'années de cela. Tout le monde le sait. L'Europe le sait, la Grèce le sait, les Chypriotes grecs le savent.
Ce n'est pas ce
également.
Qui est prévu dans les traités internationaux.
Les traités internationaux, s'il s'agit de traités...
Droit maritime, traité de Lisbonne de 1923.
Il faut, pour que ça soit juridiquement contraignant pour un pays, il faut que le pays le signe. Le traité sur le droit de la mer, justement, c'est parce qu'il y a des articles qui ne nous favorisent pas et ils ne sont pas le seul. Il y a une trentaine de pays qui ne l'ont pas ratifié. On fait partie de ces pays-là. Ce dont il s'agit dans le contexte turco-grec est le suivant. Le principe d'équité est un principe fondamental dans dans le droit et ce principe-là qui est, permettez-moi de le dire, bafoué.
Mais monsieur l'ambassadeur, permettez-moi une remarque. Vous parlez des traités que vous n'avez pas signés et que donc vous estimez qu'il ne faut pas respecter. Mais par exemple, les traités concernant les droits humains, les droits de l'homme, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ratifiés par certains pays qu'il ne faut pas les respecter et que les autres pays veulent les faire respecter.
Mais quel est le droit que la Turquie ne respecte pas
le droit traité... maritime est quand même un droit important.
Mais le droit humain et le droit maritime, c'est quelque chose de différent, chère
Bien
madame.
Sûr, mais je vous prends un exemple. Vous n'avez pas ratifié un tel traité, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le respecter par rapport aux autres.
Ça n'est pas, je disais tout à l'heure et je répète avec beaucoup de plaisir, le propre de la Turquie. Il y a une trentaine de pays, les États-Unis compris, qui n'ont pas ratifié ce traité. Et il y a, c'est un droit aussi fondamental pour les États. Vous savez, l'Union européenne a inventé des choses formidables pour l'humanité et l'une de ces inventions qui reviennent à l'Union européenne, c'est d'avoir mis en avant la notion des droits fondamentaux pour les États. Alors le fait pour un État de ne pas vouloir signer un traité qui ne lui convient pas, c'est un droit fondamental.
Monsieur l'ambassadeur, Turc oui. En France, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous semblez considérer que la Méditerranée orientale, c'est votre terrain de jeu, c'est votre lac aujourd'hui.
Non, c'est pas cela. C'est pas ce que nous disons. La Turquie n'est pas seule dans la région. Il y a des pays riverains. Mais il se trouve que nous sommes le seul pays qui a des côtes les plus longues dans la Méditerranée. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Si on suivait les demandes maximalistes de nos amis grecs, elles sont maximalistes. Il faut convenir. Si on les suivait, les Turcs, pour accéder dans les hautes mers, il devrait demander la permission de la Grèce.
Pour vous, c'est une provocation des Européens, ce n'est pas une provocation de votre part ?
Ça, c'est une provocation aussi, parce que ne pas reconnaître à un pays de pouvoir accéder dans les hautes mers, ça, c'est une provocation aussi. Mmh. Aussi, je vais donner un autre exemple.
Mais monsieur l'ambassadeur, permettez-moi, est-ce que vous pensez vraiment que la Grèce peut accepter ce que vous faites non loin de l'île grecque de Castellorizo ? Ce sont des eaux qui sont sous souveraineté grecque.
Castellorizo, chère madame, vous savez, cette île est à 2 kilomètres seulement des côtes turques, 2 km, et 580 km des côtes grecques. Quand vous faites, quand vous donnez un effet plein à cette île dont il s'agit, ben vous savez, les pêcheurs turcs ne pourront même pas pêcher devant leur maison.
Et pourtant, monsieur l'ambassadeur, la France, pour soutenir la Grèce, a réagi en dépêchant sur place, mi-août, 2 navires de guerre et des chasseurs rafales. Comment vous avez perçu ces décisions? Comment le président Erdogan, avec qui vous, évidemment, vous échangez régulièrement, a réagi?
Notre ministère a fait une déclaration en la matière. Elle est connue, elle est publique. Là, ce dont il s'agit, c'est qu'il...
Vous pouvez nous la rappeler, parce qu'à un moment, je crois qu'il y avait une déclaration disant que nous nous étions comportés, la France, comme un caïd.
Écoutez, la déclaration du ministère des Affaires étrangères est très simple. Ça coïncide avec un accord qui a été promulgué entre la France et la Grèce également. Et notre ministère, notre pays est d'avis que les Chypriotes grecs n'ont pas la pleine capacité pour signer des accords de ce genre.
Je vous parle
compte tenu
de la France, monsieur l'ambassadeur. La France, à travers le président Emmanuel Macron, dénonce votre attitude expansionniste, vos velléités impérialistes. Est-ce que c'est faux?
C'est faux.
Pourquoi?
Je pense que il y a des critiques de cette nature venant de différents pays en Europe. Vous savez. Je vous parlais tout à l'heure d'une île qui est seulement à 2 km des côtes turques. Nous, on serait considérés comme impérialistes alors qu'on s'occupe à 2 km de nos côtes. Et d'autres pays qui viennent de 2, 3, 4, voire 10 000 km
quel
de
pays,
distance. Vous les savez?
Non.
Vous les savez,
non, je préfère
c'est
que
pas
vous
le
citiez.
Rôle d'un ambassadeur.
Non, ce sont des sujets assez graves pour vous laisser les citer, monsieur l'ambassadeur.
Ceux qui nous traitent comme impérialistes aujourd'hui...
La France ?
Ils doivent d'abord se poser la question à eux-mêmes. Parce que les pays qui viennent de 5000 km, de 10 000 km, d'essayer de donner de l'ordre, entre guillemets, ou faire valoir leurs avis, leurs intérêts dans la région, il faut qu'ils reconnaissent à notre pays également le même droit.
Et vous inversez la charge. Hein. Vous dites que ce sont les autres pays, à vous entendre la France, qui auraient des velléités impérialistes. Mais moi, je peux vous rappeler aussi, monsieur l'ambassadeur, les mots quand même du président turc Erdogan à l'intention d'Emmanuel Macron, parlant de caïd, parlant d'ailleurs de velléités impérialistes au Liban, etc. C'est ça. On a l'impression que la France est votre adversaire.
La France et la Turquie, chère madame, ce sont des grands pays, amis et alliés.
Amis et alliés.
Amis et alliés. Il faut le remettre. Vous savez, notre amitié remonte à 537 ans d'aujourd'hui. Donc presque 6 fois centenaire. Il se trouve qu'il y ait des divergences. Moi, je les considère d'un pur conjoncturel.
Ce ne sont que des divergences, monsieur l'ambassadeur, en ce moment.
C'est-à-dire qu'il y a une...
Avec une telle rhétorique agressive entre deux pays membres de l'OTAN et alliés?
Tout à fait. Deux pays membres... de l'OTAN, d'un pays ami et allié, on a des différends, mais des fois profonds, il faut le reconnaître. Mais il ne faut pas citer seulement les déclarations, une des déclarations de M. le Président Macron, il a eu une autre déclaration récemment relative à ces questions-là, qui était tout à fait, qui avait toute une autre portée, et qu'il parlait d'un engagement avec la Turquie aussi. Donc il ne faut pas se fier seulement aux apparences et il faut accepter le fait qu'il peut y avoir des différences entre des pays amis et alliés, mais que c'est important, permettez-moi de le dire, et qu'on continue à traiter et à parler.
Monsieur l'ambassadeur,
on a engagé
très bien,
un processus,
on l'entend ce matin, le dialogue, vous nous direz avec qui? Vous dialoguez avec la France?
Bien sûr.
Monsieur Erdogan dialogue directement avec le président.
Écoutez,
Emmanuel Macron.
Monsieur Erdogan et monsieur Macron, ils parlent assez souvent. Ils parlent au téléphone, ils parlent quand ils sont face à face, ils parlent à New York, ils parlent à Paris, ils parlent à Bruxelles.
Et en ce moment, ils se parlent aussi de cette situation, donc directement, c'est ce que vous nous dites.
Écoutez, ils parlent je disais régulièrement. Mais je ne peux pas vous dire quand et pour quelles raisons ils ont
parlé. Monsieur l'ambassadeur, on va conclure. On vous a longuement entendu sur cette situation et on voulait en parler ce matin sur Europe 1. Un autre sujet quand même est important en quelques mots, la reconversion de la basilique Sainte-Sophie qui a en mosquée, qui a suscité énormément de réactions dans le monde et en Occident. Pourquoi avoir ainsi remis en cause un symbole d'universalité ?
L'universalité, ça n'est pas l'universalité qui a été mise en cause. Vous savez, quand il s'agit de ces questions-là, je crois qu'il faut avoir une attitude beaucoup plus impartiale et complète. On a l'impression que seule la Turquie prend des décisions de cette nature. Déjà, il faut revenir un peu en arrière.
Il n'y a pas beaucoup de basiliques Sainte-Sophie dans le monde, monsieur l'ambassadeur. Voilà pourquoi ça focalise notre attention.
Qu'est-ce qui préoccupe les gens ?
Un projet d'islamisation en Turquie, de la part du président Erdogan.
Turquie est un pays musulman. On n'a pas besoin d'islamiser davantage la Turquie, primo. Secondo, la Sainte-Sophie, quand Istanbul a été conquis, a été transformée en mosquée. C'est un fait et il y a un acte juridique en la matière qui a été, pour des raisons différentes, considéré autrement et ça a été transformé en musée. Et
en aujourd'hui, tous les cas, c'est votre version et vous l'avez défendue ce matin, monsieur l'ambassadeur. Pardonnez-moi, on arrive à fin de cet entretien.
Encore juste une phrase pour conclure, pour dire que ces questions-là relèvent purement de la souveraineté de la Turquie. Il faut nous demander la chose suivante. Est-ce qu'on protège comme il le faut la Sainte-Sophie ?
Eh bien, chacun se fera son idée sur cette conclusion. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.
Merci, Sonia. Dans un instant, un nouveau journal avec Hélène Zélani. Et puis, on va prendre soin de vous dans Europe Matin. Votre santé, notre planète, avec le docteur Jimmy Mohamed et Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 8h32.
On n'a pas besoin d'endormir les patients, on n'a pas besoin de les sédater, on n'a pas besoin de les curariser. C'est une stratégie qui permet sans doute de placer moins de patients sous ventilation artificielle.
Des patients mieux pris en charge et donc moins de complications pour les malades du Covid. On vous expliquera pourquoi dès le début de ce journal. Si le masque était gratuit pour les collégiens, lycéens et étudiants, plusieurs voix s'élèvent pour le demander alors qu'un conseil de défense s'ouvre tout à l'heure à l'Élysée. Bientôt la rentrée et la fin des vacances, le secteur du tourisme fait ses comptes.
Juste après ce journal, la météo de Laurent Cabrol, votre santé avec le docteur Jimmy Mohamed face aux fake news sur la mutation du coronavirus, notre planète avec Fanny Agostini avant de retrouver Nicolas Canteloup. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au printemps dernier, les hôpitaux étaient débordés par les cas de Covid. Doucement mais sûrement, les médecins ont appris à mieux traiter les patients pour éviter les complications.
À l'heure actuelle, on compte 4700 malades hospitalisés, 400 en réanimation. Cette meilleure prise en charge est un signe encourageant. Les précisions d'Ève Roger.
On le sait, il n'existe pas de médicament miracle contre le Covid-19, mais aujourd'hui, les médecins donnent des corticoïdes, plus précisément de la dexaméthasone, à tous les patients sous oxygène, comme Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, qui en a constaté les effets positifs.
Ce médicament a démontré son intérêt pour réduire l'évolution vers les formes graves de réanimation ou l'évolution vers le décès des patients déjà intubés ventilés en réanimation.
Deuxième progrès, les médecins aujourd'hui intubent de façon moins systématique les patients, c'est-à-dire qu'ils transpercent moins leur trachée. Ils utilisent maintenant une autre technique qu'on appelle l'oxygénation à haut débit, car ils ont compris qu'elle était moins dangereuse pour les soignants que ce qu'ils craignaient, à cause des risques de contagion, mais aussi moins agressive pour les malades, explique Éric Maury, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
On n'a pas besoin d'endormir les patients, on n'a pas besoin de les sédater, on n'a pas besoin de les curariser. C'est une stratégie qui permet sans doute de placer moins de patients sous ventilation artificielle.
Enfin, les médecins ont aussi compris pourquoi certains patients, lors de la première vague, décédaient brutalement en réanimation. C'était à cause d'une embolie pulmonaire provoquée par la formation de caillots dans le sang. Aujourd'hui, ils anticipent en donnant des anticoagulants à tous les patients en réanimation. Ève Roger.
Ce matin, un conseil de défense se réunit à l'Élysée. Il doit notamment se pencher sur les nouvelles règles sanitaires dans les entreprises ou encore à l'école.
Et d'ailleurs, selon les informations d'Europe 1, certains protocoles sanitaires vont être revus dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est opposé à la gratuité des masques qui seront obligatoires à partir de 11 ans dès la rentrée. C'est pourtant une demande qui revient de plus en plus souvent.
Philippe Juvin, à 7h40, tout à l'heure, le professeur Philippe Juvin, qui est également maire, le demandait sur Europe 1. Dans une semaine, donc tout juste, la rentrée des classes et donc la fin des vacances pour les familles.
Et pour le secteur du tourisme, l'heure des premiers bilans. Le Covid a tout bouleversé. Les Français sont restés dans l'Hexagone cet été. Certains professionnels se frottent les mains, mais pas tous. Emmanuel Dutheil.
Il y a ceux qui poussent clairement un ouf de soulagement. Ce sont les résidences de loisirs, l'hôtellerie moyenne gamme située hors des grandes villes. Là, les Français sont venus compenser l'absence des touristes étrangers. Selon Yann Cayer, le directeur général de Pierre et Vacances, invité hier de La France Bouge sur Europe.
On est pratiquement aujourd'hui, comme l'année dernière, les destinations favorites que sont le sud-est, le sud-ouest, etc. ont continué à très bien fonctionner. Par contre, on a deux gros gagnants. C'est la montagne et la Bretagne.
Mais voilà, cet optimisme est loin d'être partagé par Jean-Pierre Masse, le patron des entreprises du voyage. Les hôtels de centre-ville, le haut de gamme ont été désertés faute de clientèle étrangère et ce n'est pas prêt de s'arranger.
Il est peu probable que les étrangers et les étrangers à haute contribution reviennent en France dans les semaines et les mois à venir. Les déplacements professionnels, eux, sont également en berne et les perspectives de reprise sont inférieures à ce que l'on avait imaginé au mois de juin.
Et pareil, hein, la saison est catastrophique pour ceux qui travaillent sur l'étranger. Moins de 20% des Français qui ont l'habitude de partir hors de France ont pris l'avion, principalement pour la Grèce ou la Sicile.
Emmanuel Dutheil, que vous retrouvez hein, tous les jours avec Elisabeth Assayag dans La France Bouge, c'est entre 13h et 14h sur Europe 1, bien sûr.
Gérald Darmanin va démissionner samedi de son mandat de maire de Tourcoing. Être ministre de l'Intérieur, c'est ministre à plein temps, écrit-il sur Twitter.
L'opposant russe Alexei Navalny a bien été empoisonné. Verdict des médecins allemands qui le soignent.
L'Union européenne appelle Moscou à mener une enquête indépendante et transparente. Et puis aux États-Unis, manifestation dans plusieurs villes après la bavure policière de Kenosha dans Wisconsin. Un policier a tiré 7 balles dans le dos d'un homme noir qui s'apprêtait à rentrer dans sa voiture. Il était dans un état critique, mais il y a une amélioration dans son état, selon sa famille. Et puis, 900 pompiers ont lutté toute la nuit contre les flammes près de Marseille. 6 ont été légèrement blessés. 450 hectares de végétation sont partis en fumée. La situation évolue favorablement ce matin. Les 24 massifs des Bouches-du-Rhône sont toujours en alerte incendie très élevée à cause de la chaleur et du vent.
Merci Hélène Zelani. C'était le journal de 8h30.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Laurent Cabrol est avec nous.
Eh bien, je vais vous parler du temps. Du temps qu'il fait.
S'il vous plaît.
Non, mais j'étais en train je réfléchissais à cette zone de pluie qui traverse la France, qui en fait n'est pas de la pluie, c'est une sorte de bruine. Et elle traverse toute la moitié nord. Elle va éviter tout le sud-ouest, elle va éviter le massif central, la région Rhône-Alpes, une bonne partie de la vallée du Rhône, et surtout le bassin méditerranéen qui sera à l'abri, bien sûr, des intempéries. Sur une petite moitié nord, cette zone de pluie passe. Vous qui passez sans me voir un petit peu, vous voyez, notamment sur la Bretagne et sur la Normandie, où elle va vraiment se disloquer très rapidement. Et puis sur Paris, on aura encore un petit peu de crachin jusqu'à la mi-journée. Ensuite, ça ira beaucoup mieux. Simplement vous dire pour terminer que c'est la chaleur qui va aujourd'hui vous surprendre, chers amis, parce que nous allons atteindre les 36 degrés du côté de Carcassonne ou de Limoux, 34 à Lyon, 33 degrés à Valence, Clermont-Ferrand, Limoges, Bordeaux, 30-31, 29 à Paris, 27 à Nantes, 25 à Caen et 24 à Lille. Vous voyez, des températures qui restent très chaudes. C'est la journée la plus chaude de la semaine. C'est le pic de la semaine. Et à partir de demain, ça commencera à baisser. Et samedi, dimanche, il fera frais.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Je voudrais que vous preniez cette habitude à présent. À cette heure-ci, tous les jours, on va prendre soin de vous. On va prendre soin de nous-mêmes aussi avec Jimmy Mohamed et Fanny Agostini, votre santé et notre planète. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Alors Jimmy, ce matin, vous avez souhaité revenir sur cette information qui a beaucoup circulé. Le virus, ce fameux coronavirus, aurait muté et serait moins agressif. C'est totalement faux, c'est ça?
Oui, c'est une fake news. Alors si jamais vous n'avez pas le courage d'écouter la chronique jusqu'au bout, je vous dis, c'est faux, archi faux, donc protégez-vous. Alors ce qu'il faut savoir,
restez quand même, vous allez apprendre des choses.
Vous allez apprendre quelques petits trucs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, c'est un virus qui se réplique beaucoup, qui fait beaucoup de copies. Et comme il fait beaucoup de copies, parfois il se trompe. Et quand il se trompe, cette modification de son code génétique peut aboutir à un virus qui serait plus virulent, plus contagieux ou qui pourrait même être beaucoup plus faible. C'est un peu comme en orthographe, Mathieu, si je vous demande d'écrire le mot hippopotame 30 000 fois, et bien au bout d'un moment, vous allez peut-être faire une erreur, vous allez peut-être oublier le H de hippopotame. Ça n'aura pas beaucoup d'incidence, c'est moche, mais on pourra lire le mot et on comprendra que c'est un hippopotame. Mais maintenant, si vous prenez la ville de Houille dans les Yvelines, si vous remplacez le H par un C, et bien tout d'un coup, ça change le mot. Et là, le virus est complètement différent. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que cette mutation qu'on a observée, on l'a vue mi-février, elle a été décrite. Et petit à petit, ce virus est devenu dominant sur l'ensemble des autres coronavirus. Ce qui veut donc dire que l'épidémie qui a tué 30 000 personnes en France, l'épidémie qu'on a observée aux États-Unis, eh bien c'est lié au virus qui aurait soi-disant muté au mois de juillet. Donc non, le virus n'a pas muté récemment. C'est le même virus, il est tout aussi virulent et il est tout aussi contagieux, voire même un peu plus contagieux. Ce qui veut donc dire qu'il faut encore se protéger et ne pas baisser sa garde.
Et ça, c'est important de le rappeler. Mais pourtant, ce que vous nous dites, Jimmy, c'est que cette information partait d'une vraie étude publiée.
Eh oui, sauf que l'interprétation est fausse et ce qui prouve que la science, c'est difficile. Alors, ce qu'il faut se méfier, c'est trois choses quand vous voyez une étude. C'est un, du journal dans lequel elle est publiée. Souvenez-vous, la semaine dernière, de cette étude complètement folle qui a été parue dans un journal asiatique qui disait que l'hydroxychloroquine protégeait des accidents de trottinette. Méfiez-vous de l'étude en elle-même. Si vous avez un faible échantillon, il est facile de démontrer n'importe quoi. Et puis méfiez-vous aussi des scientifiques. Certains ont de bonnes intuitions. Isaac Newton avait la bonne intuition en voyant la pomme tomber de l'arbre en se disant qu'il y avait la gravité. Du côté de Marseille, on a une autre intuition avec l'hydroxychloroquine. Ça fait beaucoup de mal à la science. On a testé l'hypothèse, elle n'a pas marché. Et puis désormais, tout le monde a son avis sur le coronavirus. On a même Bernard-Henri Lévy qui a parlé de maladie imaginaire en parlant des personnes qui seraient asymptomatiques. En tout cas, la science n'est pas une question d'avis ou d'opinion, c'est juste une question de preuve et il faut être prudent dans cette période un peu folle où on a énormément d'études.
Merci docteur Jimmy Mohamed. C'est le médecin d'Europe 1, Jimmy, que vous retrouvez tous les matins à 8h30 et, comme l'année dernière évidemment, de 15h à 16h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. 8h42, Europe Matin, et nous retrouvons Fanny Agostini en direct de sa ferme en Haute-Loire, à Boissey. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Vivre à la campagne, comme vous, c'est un rêve pour de nombreux citadins, mais ce matin vous nous dites que ce rêve a des limites, avec de moins en moins de terrains disponibles.
Ah oui, c'est vrai que la crise Covid, hein, on l'a vu, a donné à beaucoup d'urbains l'idée de prendre la tangente. Mais pour construire, le choix d'un terrain va devenir de plus en plus restreint, Mathieu. Car le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui détermine les possibilités de construction et d'usage des sols sur l'ensemble des communes d'un territoire, a été très récemment révisé. Du coup, une bonne partie des terrains qui étaient jusqu'alors habitables se voient déclassés en terrains agricoles.
Ce qui veut dire automatiquement une perte de valeur de ces terrains.
Oui, bah c'est ça, une perte de valeur, car un terrain constructible qui devient agricole vaut beaucoup moins cher. Mais d'un autre côté, c'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire moins d'artificialisation, un avantage pour nos campagnes qui échappent à la bétonisation. C'est ce que m'a confié en tout cas une notaire du coin, une notaire de la région, qui me disait que par endroits, jusqu'à 80% des terrains à bâtir ne le sont plus.
Alors c'est aussi une bonne nouvelle, et ça on le savait forcément moins, pour les bâtisses inhabitées.
Ben oui, du coup, une majorité de personnes souhaitant déménager renoncent à construire du neuf et se tournent donc vers la rénovation. Un phénomène récent qui a l'avantage de redonner vie aux vieilles maisons de bourg, aux vieux corps de ferme, qui en plus d'avoir une âme et du cachet, sont souvent bien pensés avec une orientation sud et des murs épais, donc idéal forcément pour économiser l'énergie. C'est vraiment de très belles opportunités qui répondent à deux grands défis. Un, mieux répartir la population sur le territoire, et deux, réanimer cette France des volets fermés. Et je peux vous dire qu'il y a de la place, en tout cas par chez moi c'est le cas. Quand on sait qu'à l'échelle nationale, 8% des logements sont vacants, je vais vous donner un ordre de grandeur. Si on prenait toutes les maisons vides réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain, on pourrait y reloger très facilement l'ensemble des Parisiens.
Voilà un projet. En tout cas, c'est le projet de Fanny Agostini. Si vous avez bien compris, c'est ce rendez-vous qu'on a tous les matins avec vous, avec notre environnement, avec notre planète. Merci Fanny Agostini, 8h44. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre la revue de presse de Nicolas Canteloup, évidemment, avant de retrouver Philippe Vandel et Culture Média à partir de 9h.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, Europe Matin, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Ceux qui connaissent la matinale le savent, c'est l'heure. La revue de presse de Nicolas Canteloup, avant de le retrouver en direct lundi, le best-of.
Emmanuel Macron a semé le doute avec son concept du travailler davantage. On l'accueille tout de suite. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Et bravo aux Français qui travaillent davantage.
Bravo et merci. Merci au boucher. Au boucher qui bouche. Au plombier qui débouche. Merci aux pompiers qui pompent l'eau et aux flics qui me pompent l'air. Merci aux charcutiers qui charcutent et aux chirurgiens de Rachida Dati et d'Emmanuel Béart qui eux... non, rien, pardon. Excusez-moi, j'ai dérapé.
Alors, se travailler davantage. Personne ne comprend vraiment ce que c'est.
Je ne sais plus si c'est le vrai ou le faux, Cameroun. Je suis un peu perdu.
Bon, personne ne comprend vraiment ce concept, hein, travailler davantage. Dites-nous, monsieur Macron.
Vous n'avez pas compris ?
Non.
Oh putain. Bon, ben alors écoutez, on y retourne. Ok. Les garçons, messieurs, s'il vous plaît, vous me rebranchez la fontaine derrière moi pour faire joli. Vous me remettez la dame qui bouge les mains pour les sourds. Et vous me rebalancez la Marseillaise. Merci. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas d'en travailler davantage ? Ça fait trois mois que vous êtes au chômage partiel. Hein ? Trois mois que vous glandez rien chez vous et que c'est moi qui paye. Alors pardonnez-moi, mais travailler davantage que rien, hein ? Vous êtes sûr que vous ne comprenez pas travailler davantage que rien ?
On va passer à autre chose. Alors Édouard Philippe s'est exprimé sur son avenir et il a confirmé qu'il restera à Matignon si jamais il...
Il a confirmé qu'il restera à Matignon. Ah, parce que c'est lui qui décide.
Attendez, mais j'ai pas fini. Qu'il restera à Matignon, même s'il est élu maire du Havre. Voilà, c'est ça.
Vous avez fini votre phrase, Julie ?
Oui, terminée.
Oui, c'est la même. Il reste à Matignon, même s'il est élu maire du Havre.
Oui, c'est ça.
Non, il reste à Matignon, si je veux. Voilà. Édouard Philippe, je lui accorde de ne pas travailler davantage, d'ailleurs. Hein, même de travailler moins. Même de travailler plus du tout, s'il veut. Hein. Ils me fatiguent tous en ce moment. Je suis crevé. Je suis crevé.
Mais courage à vous. Plus que 2 ans. Allez.
Merci.
Allez. Il va falloir travailler davantage. C'est la petite phrase prononcée par Emmanuel Macron qui fait toujours grand bruit. On va recevoir tout de suite le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour aux camarades syndiqués de la matinale d'Europe 1. Ce soit Monsieur Lassène, Paul, Madame Roche-Omblin ou Monsieur Cabrol. Voilà. Alors comment
vous l'avez compris cette phrase ?
Bah écoutez, je vais vous répondre. Hein, comment que j'ai compris cette phrase ? Bah je crois qu'il n'y a pas besoin d'un dictionnaire de synonymes Macron pour comprendre. Hein. Macron nous prend clairement pour des cons, voilà, pour des zozos. Hein. Le travailler davantage, oui, bah, excusez-moi, ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire. Le travailler davantage de Macron, c'est la même chose que le travailler plus de Monsieur Sarkozy. Hein. Ouais. Pour causer trivialement, si on traduit du Macron, on va se faire ken et en même temps on va se faire ken, voilà. C'est du Macron dans le texte, voilà ce que je pense. Voilà.
Alors Bruno
et
Le Maire.
Ça tombe bien parce que je suis de mon avis.
D'accord avec vous, ça va.
Bruno Le Maire a tout de suite essayé d'éteindre l'incendie. Il a dit que le président n'avait pas voulu dire ça. Voilà.
Ah, il n'a pas voulu dire ça, il a dit, et qu'il voulait éteindre l'incendie. Donc, monsieur le maire, maintenant, on vient de le comprendre, pas seulement ministre des Finances, mais il est pompier, prof de français, c'est ça. Il nous traduit le français du patronat et en français de droite. Ben, on n'a pas besoin de lui, hein, vous savez, à la CGT, on a compris le message. Hein,
Alors là, je dois dire que je suis d'accord. Je suis d'accord avec le camarade Martinez. Bien dit, Philippe.
Eh ben tiens, c'est vous, monsieur Régis, de la CGT SNCF.
Oui, bonjour à tout l'ouagon. Bonjour, camarade Martinez. Alors là, on est remonté à la CGT SNCF. Ah oui, on est remonté. Non, mais franchement, la vulgarité de ce président. La grossièreté de Macron, là, mais comment ose-t-on parler comme ça aux Français ?
Mais
la vedette, tu me coupes pas, Leclerc, t'as pas ta carte, toi, Il passe trop de temps au téléphone avec Bigard, le Macron, la vulgarité du propos, non mais on croit rêver.
Mais qu'est-ce qu'il a dit de si vulgaire ? Qu'est-ce qu'il a dit de si vulgaire, Macron ?
Mais je sais pas ce qu'il vous faut, Mais j'ose à peine le répéter sur votre antenne.
Allez-y.
J'y vais. Il a dit qu'il faut travailler davantage. J'aurais pas dû le dire, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Non, mais c'est des propos immondes. Oh, bah oui, c'est des propos orduriers. Travailler davantage et oh,
oh là là, on vous sent drôlement choqué. Hein. Mais qu'est-ce qui est si grave, dites-nous.
Qu'est-ce qui est si grave Bon, on va faire l'exégèse, oui, parce que je connais des mots compliqués.
Bien.
Il y a deux grands axes dans cette proposition. Il y a l'axe travailler. Et ça, alors ça, la CGT, on n'est pas d'accord. Il y a le deuxième axe qui est davantage. Alors là, là par contre, là, on n'est pas d'accord non plus. Et alors les deux ensemble, non, mais c'est le pompon, c'est le bouquet. Je te prends un témoin, camarade Martinez, je trahis pas ta pensée.
Non, là, je crois que t'as bien résumé, camarade Régis. On est d'accord sur le fond, voilà, c'est...
Voilà, nous faire travailler davantage, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Oui, ça, on sait. Allez, merci messieurs. Les salariés de BFM ont voté une grève inédite pour manifester contre le plan social organisé par leur patron, Patrick Drahi. On va se connecter à la matinale de Christophe Delay sur BFM.
Bonjour et bienvenue sur BFM Télé. L'info ce matin, c'est la chaleur. Vous l'avez compris, la chaleur, il fait chaud. Tout de suite, un jingle météo. Voilà, alors écoutez, cela peut, chers téléspectateurs, vous sembler un petit peu excessif comme jingle, mais on va tout vous dire, on va être transparent avec vous ce matin. Plusieurs membres de la rédaction, on n'est pas habitué à ça, sont en grève ce matin, donc je dois lancer les jingles moi-même. Donc vous l'avez compris, voilà, on reparle de cette grève tout de suite avec un jingle conflit social. You're beautiful. Merde. Pardon, chers auditeurs, excusez-moi, je me suis trompé de lancement de bouton, plus exactement. C'est l'amour est dans le pré, ça, qu'est-ce que ça fout là? Non, bon, on n'a pas trop la notion de conflit, donc du coup, bon, bref, on va retrouver Patrick Sauce, pardonnez-nous pour ces petits impairs. Patrick Sauce, notre envoyé spécial sur cette grève avec son binôme Serge Béarnaise. Patrick,
Drahi, si tu savais ton plan départ, où on se met au cul? Aucune hésitation. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, Christophe, je suis avec les collègues grévistes qui sont en train de faire brûler des dépêches AFP pour faire cuire des merguez dessus. Mais on ne sait pas encore si elles seront cuites correctement. C'est notre vraie question. C'est notre vrai tâtonnement ce matin. Notre vrai questionnement, devrais-je dire.
Oui, donc c'est ça l'odeur de barbecue que nous avons en plateau. Patrick, soyez indulgent tout de même avec nos camarades. Hein, BFM, jusque-là, c'est vrai qu'on a surtout filmé les manifs pour les critiquer. C'est la première fois qu'on doit en faire une, donc c'est normal que nous tâtonnions au début. Mais nous sommes tous ensemble, ouais. Ouais.
Christophe, les CRS arrivent. Priorité donc au direct.
Oula, oula.
Patrick.
Une bagarre là.
Patrick. Oui, bon, écoutez, là.
Non, les CRS nous tapent dessus, Christophe.
Voilà, oula, bon, écoutez, je vous avoue, je suis en direct à l'antenne. Je ne sais pas trop quel positionnement prendre, Patrick. Venir vous aider, ce serait défendre un manifestant, et vous savez que ça, c'est interdit par le règlement éditorial de notre chaîne. Et en même temps, ici à BFM, nous devons aussi lutter pour nos droits face à l'oppression du grand capital marchand. C'est un véritable grand écart pour nous. On va écouter, voilà ce qu'on va faire. On va marquer une pause pour réfléchir à tout ça là. Parce que j'ai le cerveau qui fume, autant vous l'avouer ce matin. En tout cas, on vous rappelle la principale information de cette édition. Il fait chaud, voilà.
Nicolas Canteloup, la revue de presse. Et on retrouve Nicolas Canteloup et Julie en direct à partir de lundi, évidemment. Il est 8h55 sur Europe 1, la suite de la matinée. C'est Culture Média avec Philippe Vandel. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. On va parler aujourd'hui du retour de Koh-Lanta, de The Voice Kids et plein de choses, plein de nouveautés côté fiction, des grandes séries étrangères. C'est la rentrée de TF1 et Xavier Gandon, le patron des antennes du groupe TF1, sera notre invité média. L'info média du jour, c'est une alerte rouge lancée par RSF, Reporters sans frontières. 20 journalistes journalistes ont été tués dans le monde en 10 ans. 20 journalistes spécialisés dans le domaine de l'environnement. Je rappelle, ils ne couvrent pas la mafia ou le deal de cocaïne, mais l'environnement, vous saurez pourquoi ils sont morts et ce qu'on peut faire. Et puis, dans la liste des romans très attendus de la rentrée littéraire, longtemps je me suis couché de bonheur, bonheur en un seul mot, c'est signé Daniel Picouli et il sera avec nous dans ce studio.
Voilà le programme, Culture Média 9h-11h avec Philippe Vandel. Nous allons revenir demain matin. À partir de 5h, vous serez réveillés par Sébastien Krebs sur Europe 1. Pour ma part, je serai là en direct à partir de 7h. D'ici là, le monde aura changé.
On va vous
le raconter.